Avant de commencer l'épisode, je dois vous parler d'un rendez-vous immanquable dans l'écosystème SaaS. Le 25 et le 26 septembre prochain, en plein cœur de Paris à Station F, c'est le retour de B2B Rocks, l'événement incontournable du SaaS B2B. Et je vais vous donner trois bonnes raisons de vous y rendre. La première, c'est que vous allez rencontrer une communauté mondiale qui regroupe plus de 3000 participants de l'écosystème SaaS, avec des fondateurs, des C-level, mais aussi des VC. La deuxième, c'est qu'ils ont réuni des speakers de classe mondiale venant des plus belles startups comme Asana, Notion, Figma, Aircall, Paddle ou encore YouSign pour parler d'intelligence artificielle, de marketing, de génération de revenus, mais aussi de bootstrapping. La troisième, c'est que vous allez pouvoir connecter avec vos pairs et créer des relations durables grâce à l'atmosphère unique de B2B Rocks. Mais j'ai surtout une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai négocié moins 50% sur le prix des billets. Alors pour en profiter, c'est très simple, rendez-vous sur le site de B2B Rocks, b2brocks.co et utilisez le code SASCLUB50, tout en majuscule et tout attaché, pour bénéficier de moins 50% sur l'achat de vos billets. Bref, c'est une super affaire pour un super événement. Et une dernière info avant de vous laisser avec l'épisode du jour, plus vous attendez, plus les prix des places augmentent, alors ne tardez pas, rendez-vous sur le site b2brocks.co pour bénéficier de moins 50% sur vos billets. Bon épisode.
À ce moment-là, ça fout un putain de doute, tu vois. Les gens se disent, ah, mais il y a un fondateur qui se barre. Puis en plus, il y a une grosse partie, un bon nombre de gens qui se barrent, qui étaient là depuis longtemps, parce que, enfin, il n'y avait pas que des sales qu'on venait d'embaucher. Et merde, est-ce que la boîte va mal, quoi? Alors, tu leur dis, ben non, ça va. On a du cash, la boîte va bien, etc. Donc tu dois faire un énorme travail pour rassurer. Mais tu vois, c'est sûr que ouais, ça a été un énorme challenge. Et en plus, tu vois, sur le moment, tu peux pas non plus être, enfin, tout mettre sur la table, de dire ah non, mais le modèle en fait, il marche pas. Donc, enfin, tu peux. Il y a les gens qui sont encore là. Là, c'est touchy comme situation. Ça demande quand même d'expliquer avec le plus de transparence possible, de montrer aux gens qu'on a encore les reins solides, suffisamment de cash, et que on prend une trajectoire qui est la bonne. C'est juste est-ce qu'ils te font confiance ou pas, quoi. Et là, tu joues des points de confiance. Et donc, t'as intérêt à ce que ça marche parce que sinon, t'en perds beaucoup. Mais ouais, j'ai eu clairement peur d'une hémorragie, tu vois. À un moment où justement on avait réduit la voilure, où Pierre partait, putain, ça a secoué, hein. Ça a vraiment secoué.
Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apportez sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute! Et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de SaaS Club. Ça y est, c'est le retour d'Arnaud, le cofondateur et CEO d'Asso Connect dans le podcast. Salut Arnaud.
Salut Eric. Bienvenue à la maison. Merci de m'inviter à nouveau.
Bah, ça me fait super plaisir. J'avais gardé un très bon souvenir de notre échange. À l'époque, on l'avait fait en présentiel. Dans les locaux d'Asso Connect qui étaient vides.
Je me souviens très bien. Est-ce que tu te souviens ? C'était en plein été. Je crois que c'était un 14 juillet. Et effectivement, il y avait Center.
Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Exactement. On avait les locaux pour nous tout seuls. Et non, mais en tout cas, je garde un très bon souvenir. Et pour la petite histoire, je partage souvent ton épisode. En tout cas, c'est un des trois épisodes que je partage aux futurs invités du podcast pour expliquer, en tout cas montrer un peu ce que j'ai envie de véhiculer dans l'émission, et voilà. Donc si vous n'avez pas écouté le premier épisode d'Arnaud, écoutez-le, il est excellent.
C'est sympa. J'espère que je me contredirai.
Non, mais on a des sujets assez sympathiques aujourd'hui. On va les introduire juste après. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous faire un petit catch-up, voilà, nous dire un petit peu ce qu'il y a à SoConnect, nous représenter un peu la boîte et nous faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé depuis le premier enregistrement.
Oui, bien sûr. Alors déjà, à SoConnect, on est une boîte qui travaille avec des associations. On équipe un peu plus de 40 000 assos, vraiment de tout type, du petit club de sport à des grosses fédérations médico-sociales, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à se professionnaliser avec des outils SaaS. Je pense qu'on peut dire ça dans SaaS Club, du logiciel en ligne sur différents fronts, tout ce qui est en fait administration de l'association, gestion de l'association et communication. Donc collecte de paiement. Paiement des dons, des adhésions, etc. Comptabilité, gestion de mes membres et communication du type emailing. Voilà, donc ça, c'est les grandes briques fonctionnelles sur lesquelles on équipe 40 000 assos. Et puis, en plus de ça, on crée un paquet de contenu pour le secteur associatif. Et je suis pas sûr qu'on en ait parlé, mais on vient de lancer une nouvelle offre qui s'appelle Baby Asso pour la création d'assos. Je sais pas si je t'en avais parlé de celle-là.
On s'en est parlé en off, mais à l'époque, c'était
du coup,
pas
c'est
encore
live. C'est tout frais, tout chaud. Et donc, ce qu'on fait, c'est que il y a 70 000 assos qui se créent chaque année. Quand tu sais pas comment faire, c'est hyper galère de créer une asso. C'est chronophage, les statuts sont souvent mal rédigés, etc. Et donc, on a lancé une offre complètement gratuite au pourboire. Donc, les gens payent à la fin s'ils en sont contents pour créer ton asso. Donc tu vas remplir un formulaire où tu dis voilà le type d'asso que je souhaite créer, on te guide et à la fin on va automatiquement on parlera peut-être un peu d'IA tout à l'heure, mais notamment à base d'IA, générer tous les documents, faire des allers-retours avec la personne et puis déposer ça en préfecture. Donc on génère PV, statut, dépôt en préfecture, SIRET, etc. Donc de bout en bout, gratuitement, en quelques jours, on crée une association. Donc c'est une offre assez cool.
Excellent, ça fait penser à ce que propose pas mal de néobanques là-dessus justement pour créer ton entreprise.
Exactement. Là, c'est pareil, Shine fait ça pas mal. J'en avais discuté avec Nicolas il y a quelques années et moi c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Après c'est un énorme challenge de réussir à faire ça en suffisamment peu de temps pour que ça ne soit pas des coûts astronomiques pour nous et que le ROI soit à peu près positif sur l'opération, mais donc voilà, c'est tout nouveau. Et sinon, pour répondre à ta question quand même initiale, je crois qu'on s'est vu en 2021, il y a 3 ans, tout petit peu moins de 3 ans peut-être. Ouais. À l'époque, on devait équiper 10-15 000 associations. Aujourd'hui, on en équipe à peu près 40 000. On devait être une cinquantaine, je pense. On est une soixantaine, un petit peu plus de 60-65. On aura peut-être aussi l'occasion d'en reparler. On est passé par un pic de recrutement assez fort et on a un petit peu réduit la voilure. Et puis écoute, on est la boîte continue toujours à très bien se développer. Là, on atteint l'équilibre. Enfin, c'est tout va bien. Voilà.
Tout va bien. Trop bien, trop bien. Et vous aviez aussi donc ça c'est pour la France, mais vous avez aussi commencé à développer les US. Je crois que c'était vraiment les tout débuts des US quand on avait enregistré en 2021.
À l'époque, on devait être encore à fond dans le développement même du produit pour l'adapter. Aujourd'hui, on a le produit qui va bien. On reste encore petit aux US. Hein. Ça c'est vrai que c'est un énorme challenge. C'est un truc que tu vois, pour être honnête, on n'a pas encore totalement craqué. Ça fonctionne. On a une trentaine de clients qui s'abonnent chaque mois. Donc c'est pas zéro, hein, c'est loin de là. Mais c'est pas aussi explosif que peut l'être AssoConnect encore. Donc c'est un chemin qui est relativement long. Après, on a aussi décidé de réduire la voilure et de faire ça de manière très low touch. On avait pas mal parlé de notre approche low touch à l'époque. Donc on fait ça à distance, sans personne sur place. Donc c'est aussi, ça explique aussi, hein, les moyens en face sont relativement modestes. Mais bon, donc mitigé, c'est pas ni un échec puisque ça marche, ça continue à se développer, ni un succès phénoménal aujourd'hui en tout cas.
Ouais, bon, on aura peut-être l'occasion de faire un troisième épisode un jour là-dessus sur un succès aux US, hein. Trop bien. Bah écoute, merci pour le tour du proprio. Je te propose d'attaquer un peu le le cœur du sujet aujourd'hui. Alors, il y a deux choses avec pas mal de petites sous-parties dont on a discuté ensemble, mais il s'est passé quand même la dernière fois. Donc, qu'on s'est vu, vous étiez en pleine, je dirais, ascension, hyper croissance. En fait, entre-temps, il y a eu, je dirais, quelques remous, comme tu l'as dit. Il y a eu des phases d'accélération assez intenses, suivies potentiellement de ralentissement et peut-être de périodes, je dirais, un peu pas troubles, mais en tout cas avec des challenges. Il s'est passé quoi concrètement pour AssoConnect depuis ?
Effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Nous, on a fait notre deuxième levée de fonds en 2020. Donc 2020-2021, c'était vraiment des années où on a appuyé sur le champignon à fond et on a énormément recruté. Et notamment, on a beaucoup recruté côté sales, commercial, pour aller attaquer des comptes type réseau, etc. On a même trop recruté, je dirais. Tu vois. On s'est un peu engraissé un petit peu trop. Ça a créé plein de problèmes qui est qu'on a commencé à vendre un peu trop tout et n'importe quoi, même si on avait énormément clarifié notre offre et simplifié. Il a fallu un peu resserrer et revenir sur tout simplement quelque chose qui est tout bête, hein, des métriques qui soient beaucoup plus saines. Alors, on a un coût d'acquisition client qui est les coûts marketing, les coûts commerciaux, etc. Et qui était trop élevé. Il fallait revenir à quelque chose de plus raisonnable. Chose qu'on a commencé à engager en fait dès 2021. Et je dirais en avance de phase par rapport à la crise. Parce que la plupart des gens ont commencé à s'y mettre fin 2021, grosso modo. Nous, on a commencé un petit peu plus tôt que ça. Pourquoi ? Parce que je voyais voir le sujet des US hein, de toutes les boîtes SaaS qui se pétaient la gueule, le Cloud Index qui était pas tout rose, mais au-delà de ça, nous on vient, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais on vient d'un mindset bootstrap où la boîte pendant un paquet d'années on l'a complètement autofinancé. Ensuite on a appuyé très fort pour accélérer et finalement on est bien meilleur, je pense, nous, dans ce mindset rentable. Et donc il fallait qu'on revienne sur quelque chose qui soit un petit peu plus sain pour être dans notre zone de confort où on est vraiment performant. Alors un petit peu plus sain, ça veut dire qu'on est plus sur 150% de croissance, mais on est sur 50% de croissance. Donc c'est pas non plus zéro, mais l'ordre de grandeur c'est ça en visant la rentabilité. Donc ça c'est la trajectoire, ce qui s'est passé, sur toute la période. Mais ça a été semé de pas mal d'embûches. La première, je te laisse prendre la main, mais on a, en poussant à fond commercialement, on a poussé à fond la tech et on a eu d'énormes problèmes, notamment au support. Et ça a été un challenge assez particulier qu'on a réussi à traiter, mais qui peut faire exploser des boîtes en plein vol, je pense.
Je vais rebondir là-dessus, mais peut-être juste avant là, pour bien comprendre la logique hein, qui a amené à cette explosion de tickets au support. T'avais recruté beaucoup de sales parce que tu voulais attaquer des comptes un peu plus gros, c'est ça? C'était ça un peu l'objectif?
À l'époque, l'objectif était surtout d'attaquer des fédérations. Plus que des associations un peu plus structurées, un peu plus grosses. Ça, c'est ce qu'on fait beaucoup plus maintenant. Mais donc, c'était de travailler avec des fédérations qui, pour certaines, n'avaient en fait aucun pouvoir de décision sur les antennes. Je te prends un exemple. Une fédération sportive, ça reste potentiellement des super partenaires. Mais ce sont des partenaires, ce ne sont pas des clients, en fait. Ça peut être des clients, mais pour faire simple, un club de sport, mettons un club de tennis, en fait, il est relativement indépendant par rapport à la Fédé. Ou un club de triathlon, il peut décider de prendre ses propres outils. Donc, c'est ce qu'on appelle un réseau décentralisé où le pouvoir est décentralisé. Tu vois, c'est une relation de politique entre les deux, d'amour-haine un peu. Ils sont dans le même réseau, mais en même temps, par moment, ils peuvent pas se blairer, mais par moment, ils s'adorent. Bon, et donc, c'est pas parce qu'on équipe la tête de réseau qu'on va équiper 100% du réseau. Et ça, c'était une croyance qu'on avait. qui était une bêtise phénoménale quand tu connais le secteur, mais c'était quand même une croyance qu'on avait, qui a fait que on a trop misé sur ça et trop recruté dans cette perspective-là. Sur des cycles de vente qui sont incroyablement longs. Tu vois, on avait une armée de SDR, donc de gars qui passaient des coups de téléphone, qui bookaient des rendez-vous, pour aller closer des deals, mais en fait, ça prend potentiellement plusieurs années, et c'est pas une relation de account exécutive, c'est plus du partnership. Tu vois, et donc on a cette erreur-là a fait que on a consommé beaucoup d'énergie sur quelque chose qui n'était pas idéal. Aujourd'hui, on en est revenu. On continue à bosser avec les FED et ça fonctionne super bien, mais sur un mode partenariat, donc beaucoup plus dans un mode de prescription, avec potentiellement un peu d'engagement de la FED, mais beaucoup plus sur ce mode-là, et avec des account executives et du SDR, plutôt sur des assos peut-être un peu plus petite ou plus grosse unitairement, disons. Tu vois, typiquement une asso nationale qui a des délégations un peu partout, ça c'est et qui a le contrôle sur l'ensemble de ces délégations, donc on peut équiper l'ensemble du réseau d'un coup. Là-dessus, on est vraiment super fort. Et donc il nous a fallu un peu de temps pour trouver ce sweet spot là qui fait que personne ne sait faire ce qu'on fait et ça mérite de mettre des sales. Et tu vois, une erreur qu'on a faite, c'est en plus une bêtise. On a eu des discussions en board là-dessus, tu vois. Donc il y avait du désaccord sur le sujet. Un des board members à l'époque était assez sceptique. Il disait, moi je préfère qu'on embauche une armée de sales une fois qu'on a trop de demandes, plutôt que pour créer la demande. Et on a un peu fait cette erreur. C'est que on avait de la demande mais pas suffisamment. On a voulu la créer en embauchant plus de SDR. En fait, c'est à mon avis, c'est pas la bonne approche. Enfin, en tout cas, de notre expérience, la bonne approche est plutôt d'avoir un problème de trop de leads. Et là, on se dit bon bah en fait, ouais, là il faut y aller quoi. Tu vois. Et là, on l'a davantage sur le nouveau créneau. Ouais.
Mais je pense que t'es pas le seul à avoir eu cette croyance au début, qui est de dire, t'as beaucoup de founders qui me disent après coup j'aurais dû recruter plus vite et donc sous-entendu des fois il faut mieux recruter pour créer la demande plutôt que de l'attendre, et en fait toi dans ton exemple c'est complètement l'inverse et t'es pas le premier à me le dire en fait là-dessus à avoir recruter en masse, puis derrière se dire non, en fait c'est pas si efficient que ça et ça met du temps à ramp up en plus de ça.
Peut-être que je suis pas assez pushy, donc, ouais. Tu vois, mais honnêtement moi j'y crois pas à cette méthode. Elle marche peut-être parfois, mais t'as des sur un malentendu ça peut passer. T'as des mecs qui sont hyper fundés qui peuvent se permettre de cramer des millions pour essayer. Et donc à la limite pourquoi pas. T'as les 30 barres, bon tu vas t'essayer quoi. Mais c'est pas à quelques mois près, fondamentalement. Et tu vois, je pense que c'est une bêtise de croire que c'est le cas. Et qu'en fait, on perd du temps à pousser un modèle qui est pas forcément le bon. Donc moi, je suis plutôt adepte, maintenant, même à fond, de ça, de pousser les modèles qui marchent. C'est pas dire qu'il faut être lent. Il faut tester plein de choses très souvent, tu vois. Mais pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je pense, j'en sais rien, je sais pas quand les gens t'ont dit ça. Mais il est probable que les gens qui t'ont dit ça il y a un an ou deux aient un peu changé d'avis avec le new normal qui est d'avoir des boîtes un peu plus saines. Et dans les boîtes un peu plus saines, ça gêne moins les gens de prendre un peu le temps de réfléchir avant d'aller à fond. Voilà. Bon, après, en vrai, il n'y a pas vraiment de recette. Tu vois, chaque boîte est différente, chaque marché est différent. Est-ce que tu as une énorme intensité concurrentielle? Dans ce cas-là, tu ne peux pas attendre. Enfin, voilà, tu vois, il n'y a pas de recette magique. Mais s'il n'y a pas une énorme pression du marché, moi, ma reco serait plutôt d'embaucher à fond, seulement si on est sûr du modèle. Sûr à 100%, c'est-à-dire qu'on l'a éprouvé quoi, et qu'on a trop de demandes. Et même de manière générale, ne pas embaucher trop vite non plus. Tu vois, t'as des boîtes qui arrivent à faire des choses exceptionnelles avec très peu de personnes. On tue la culture de boîte à recruter trop vite, on met de la processite, des process dans tous les sens, tu fais forcément un paquet d'erreurs de casting. C'est facile à dire quand tu as une boîte de 60-70 personnes. C'est-à-dire quand tu dois recruter 300 personnes dans l'année, c'est pas forcément le même challenge. Mais à nos stades de boîte, je pense que prendre un peu son temps, c'est pas non plus une bêtise.
Non, mais j'aime beaucoup. Ok, très bien. Le message est passé et je pense que, comme tu l'as dit, maintenant il y a pas mal de founders qui se retrouveront avec ça. Surtout que, comme tu l'as dit, maintenant la norme c'est qu'il y a un petit peu moins de cash sur le marché et que
quand l'argent était gratuit, c'était déjà, facile. Hein, tu pouvais lever 20 millions et puis tu dépensais bêtement et puis tu allais relever 20 millions. Aujourd'hui, en fait, ça marche pas quoi. Il faut ça marche si tu fais de l'IA, quoi. Ça marche dans certains secteurs, mais sinon, faut quand même un business qui soit sain. Et au-delà de ça, pour l'entrepreneur et pour les employés, enfin les gens qui sont dans l'aventure, avoir un business qui est sain, ça a beaucoup plus de valeur. Les gens avaient tendance à surlever, ils se diluent à mort. Et c'est néfaste pour tout le monde parce qu'aujourd'hui t'as des boîtes qui sont complètement survalorisées pour aller rattraper leur valo, bah bon chance quoi. Et donc ça, les salariés, les fondateurs, ils se retrouvent potentiellement à poil même s'ils vendent leur boîte 100 millions. Bon, enfin là c'est un peu limite, mais mettons tu vends ta boîte 30 millions, t'es quand même à poil. Mais il y en a, il y en a quand même pas mal. Bon, ils ont souvent cash out ceux-là. Et puis t'as les salariés dans les BSPCE valent plus rien. Alors il y a des lois qui vont passer pour un peu revoir la valeur des BSPCE, mais c'est le truc est pour l'instant anecdotique. Donc bon, je suis pas un partisan de la petite croissance. Hein, faut pas mal entendre, hein, tu vois.
Non, mais d'une croissance plus saine, plus raisonnée.
Je pense que c'est pas mal.
Je te propose de parler de la partie support hein, qui a, je dirais, explosé pour reprendre tes termes suite à ce scale, tu vois, assez important des équipes sales. Concrètement, comment ça s'est matérialisé de votre côté?
Alors nous, c'était une double erreur, hein, tu vois, c'est ce scale-là et une mauvaise gestion du support de manière générale. Donc nous, le support, c'est quoi? C'est le très gros des clients sont des clients self-serve ou low touch, donc qui ont pas de téléphone. Les clients grand compte ont du téléphone, mais là on va se concentrer sur la partie la masse qui est pas de téléphone. Donc t'as un formulaire en ligne que tu remplis et puis on va te répondre. Donc t'as un Zendesk derrière et c'est des tickets quoi, c'est des tickets au support. Et donc à l'époque, on avait recruté un gars qui venait du monde du support, donc qui cochait toutes les cases et qui avait le malheur d'être justement trop formaté support. Alors la responsabilité est complètement partagée, mais pour t'expliquer le truc, c'est approche très productiviste où on va traiter le ticket le plus vite possible. Tu vois. Bon. Je vais aller un peu plus dans le détail là-dessus parce que c'est hyper important. Ça fera peut-être le lien avec d'autres sujets dont on va parler. Et nous, en rythme de croisière, on avait à peu près 150 tickets dans le backlog. Donc, t'as en permanence 150 tickets à traiter. Une partie sont des nouvelles sollicitations clients. Une partie sont des échanges qui sont en cours. 150, c'est pas tant que ça. Tu vois, sur 15 000 assos à l'époque, 20 000, ça reste raisonnable. Donc, c'était résolu relativement rapidement. Dans la journée, t'avais une réponse. Et puis, tout d'un coup, c'est passé de 150 à 200, à 300. Chaque semaine, ça prenait 100-150 tickets dans le backlog. Et puis, c'était exponentiel, quoi. Et on est arrivé à un stade où on avait 1300, 1500 tickets dans le backlog et des tickets qui commençaient à être super vieux et des clients qui commençaient à râler. C'était un enfer. Enfin, c'était la cata, quoi. Le truc semblait complètement out of control. Et donc là, nous, on s'y est mis à fond, Sylvain et moi, sur le sujet. On a mis tout le monde sur le pont, toute la boîte. On a mis toute la boîte. On a dit, maintenant, on fait du support pendant un mois, quoi. Et vous allez nous aider à arrêter la fuite, quoi. C'est stopper l'hémorragie. Et donc, t'as une partie des gens qui répondaient à fond au ticket et une partie des gens qui étaient concentrés sur améliorer le système. Comment on fait pour que on arrête de prendre la marée, quoi. Et là, ça a été plein d'enseignements. Et on avait commencé à bosser sur des sujets de Lean dont on va, je pense, parler avant. Et donc, ça a été l'occasion de vraiment l'appliquer à fond. Et donc, on était sur un système ultra productiviste où, comme je te disais, les personnes au support étaient déjà complètement robotisées et dans une approche très, très timée. C'est-à-dire qu'il y avait même sur leur horrible, mais j'ai honte de dire ça, mais sur leur écran, il y avait un timer quand ils ouvraient un ticket, un timer pour savoir en combien de temps ils allaient répondre. Tu vois, vraiment le truc absolument horrible et complètement contre-productif en fait. Parce que du coup, tu te concentres sur est-ce que je réponds le plus vite possible, mais pas est-ce que je réponds bien. Et pas est-ce que le ticket finalement est résolu rapidement dans l'ensemble. Hein. Si tu réponds super vite mais qu'il y a 10 allers-retours et qu'à la fin le client est mécontent, ça n'a aucun intérêt. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait non seulement un score de satisfaction qui était catastrophique, mais on avait beaucoup d'échanges. Tu vois, le end game, c'est de faire ce qu'on appelle du one touch. C'est un ticket arrive, tu renvoies la balle. C'est tellement beau, c'est tellement propre que
ouais. Et ça doit être réglé, quoi.
La réponse, c'est une œuvre d'art que tu as envie d'encadrer et c'est tellement propre que le client, s'il répond, il répond juste « merci, c'est génial ». Mais donc ça, c'est évidemment l'intention. Et on est quand même plutôt pas mauvais là-dessus maintenant. Enfin, même plutôt très bon. Mais à l'époque, c'était la cata. Et donc, c'est le moment où on a complètement reshuffle la manière de gérer le support. Je sais pas si tu veux que j'aille dans le détail là-dessus, mais…
Ouais, j'allais dire, juste avant que tu parles du reshuffle du support… À quel moment, toi, tu prends conscience que là, ça devient intenable? Et est-ce que, du coup, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du sales qui a entraîné une hausse des tickets support. Là, c'était quoi? C'est un peu un double facteur. C'est le sales qui est agressif. Du coup, forcément, il y a plus de demandes. Et donc, il y a des tickets support naturels qui apparaissent. Et le fait de pas forcément répondre, on va dire, de manière optimale, qui a engendré cette hausse des tickets.
Je dirais que le recrutement massif a été un facteur aggravant, tu vois. Mais c'est pas la root cause. Le vrai problème, c'est qu'on s'y prenait comme des manches au support et que on n'était pas suffisamment dans une logique d'amélioration. Et donc on était trop devenu dans une logique de on répond aux tickets, mais on cherche pas à éviter les tickets. Et on cherche pas à répondre plus efficacement, plus intelligemment aux tickets. Et donc la principale raison, c'est qu'on s'était oublié sur ce front-là. On met l'accent sur le fait que déjà le client ne devrait même pas avoir à poser de questions. Ne devrait pas avoir à poser de questions, c'est que si tu prends, on va parler Lean, mais dans le Lean, tu vas beaucoup sur le terrain et tu vas beaucoup voir les clients. Et finalement, ton support, c'est un des endroits de la boîte où il y a le plus d'or. T'as tous les problèmes, tu vois tous les problèmes des clients. Tu vois. Et les gens ont tendance à le voir comme un mal nécessaire, alors qu'en fait, c'est génial, c'est un endroit où tu vas comprendre partout où tu fais mal aux clients. Donc, ça mérite d'aller passer beaucoup de temps. Parce que chaque moment que tu vas passer là-dessus, tu vas potentiellement craquer des problèmes que rencontrent les gens au quotidien. Et donc, c'est très simple. L'approche derrière, je vais la détailler, mais tu vois, il fallait revenir à ça, aller améliorer le logiciel, améliorer les ressources d'aide, et puis améliorer la méthode derrière. Laisse-moi dire si tu veux que j'aille dans le détail maintenant.
Ouais, vas-y, moi je suis très preneur de savoir du coup comment est-ce que tu as changé, je dirais, la manière de fonctionner le support à partir du moment où tu t'en es aperçu. Quels sont les systèmes, les changements peut-être même humains, j'imagine il y a eu peut-être des départs, ce genre de choses.
Donc, la manière dont on s'y est pris, c'est que c'est moi qui ai repris la main complètement dessus pendant quelques mois. Ensuite, j'ai passé la main à ma chief of staff le temps qu'on recrute une nouvelle personne pour prendre le lead sur tout ça. Et en fait, la méthode, elle est très simple, elle existe. On a appliqué des méthodes de Lean et on n'a pas réinventé la roue. Et donc, le Lean, qu'est-ce que c'est ? Le Lean, peut-être le mode puriste, c'est comment est-ce que tu crées le maximum de valeur. À la limite, si ça te va, je fais un petit détour sur ce que c'est le Lean et puis ensuite, je réponds à ta question. Comme ça, tu vois, ça met en contexte, on comprendra ce que c'est une chaîne de production. Voilà.
Ça me va.
Donc, le Lean, c'est comment est-ce que tu crées la valeur optimale avec le moins de ressources possible, le moins de ce qu'on appelle du waste et du gaspillage. Et bon, ça, c'est le truc un peu classique, mais concrètement, moi, quand je l'applique dans la boîte, c'est comment est-ce que c'est une méthode pour construire une entreprise qui s'appuie sur deux choses, sur des systèmes. Il faut voir ta boîte comme des rouages, une mécanique. Tu vois, c'est un système que tu es en train de construire. Donc, nous, notre job en tant que dirigeant, c'est de construire la boîte. C'est de construire le système avec les équipes évidemment, tu vois. Mais c'est de construire le système et donc c'est des méthodes sur comment est-ce que tu fais pour construire ce système et en t'appuyant sur les gens. Ça, c'est hyper important, c'est comment est-ce que tu fais pour le faire dans une relation de confiance avec les équipes. Et ce deuxième point est important parce que c'est ça qui différencie notamment le Fordisme du Lean, où le Fordisme, c'est à des têtes pensantes qui créent un système dans lequel on va mettre des gens qui sont des robots qui exécutent. Là, on change complètement de paradigme. C'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens nous aident à créer le système.
Ouais, donc c'est plus vertical. C'est
voilà. Alors il y a quand même du vertical dans le Lean. Hein. C'est pas un truc de bisounours où tout le monde prend des décisions ensemble. C'est le job du comité exécutif, notamment de créer le système. Mais ensuite, on le fait avec les gens. Et effectivement, en concertation, il y a du bottom-up. Enfin, je vais y revenir, mais c'est ça le principe fondamental. Et donc, en gros, t'as Ford, c'est début du 20e siècle, 1910 et quelques. Arrive ensuite Toyota et deux gars, Toyoda et puis Taishi Ono, qui lancent le Lean. Ça, c'est grosso modo 1930, puis ça s'est beaucoup développé après-guerre. Donc, ça se fait au Japon, dans une boîte qui est Toyota, qui construit des bagnoles, et ils ont révolutionné la manière dont on bosse. Donc ça, c'est, enfin, on parlera tout à l'heure, je pense, des freins du Lean, mais c'est clairement un gros frein, quoi. C'est-à-dire, putain, c'est un truc fait par des Japonais, en plus, qui concerne des bagnoles, des chaînes de production, bon, ça n'a rien à voir, quoi. Mais en fait, si. Et donc, le Lean va t'apporter tout un tas de modèles mentaux. Et un des principes fondamentaux, c'est de voir les choses, de visualiser, tu vois. Dans une boîte, il y a trop de choses qui sont pas visibles. T'as des process potentiellement dans tous les sens, mais ça se finit dans Notion ou dans, enfin, que sais-je, tu vois, dans une doc que personne ne lit. Là, comment est-ce que tu fais pour rendre toute la valeur que tu délivres visible? Si on l'applique au support, eh ben, tu crées une chaîne de production, tu vois. Et la chaîne de production, bah, c'est, j'ai un client qui pose une question. Donc, j'ai un ticket qui arrive. Tu vois, on parle de pièces, tout comme sur une chaîne de production, tu aurais des pièces qui se baladent. Tu vois, tu as ta bagnole, on va lui mettre un pare-choc, on va lui mettre des roues, et donc tu as des ateliers de travail. Tu vois. Donc, le truc se déplace comme ça. Et tu vas faire en sorte de visualiser ça. Donc, la pièce, elle arrive. Elle arrive où? Ben, elle arrive potentiellement dans une zone de tri, de filtrage de tickets. Puis, elle est affectée aux bonnes personnes. Et puis la personne répond, et puis si elle peut pas répondre, ça escalade. Enfin, tu vois, tu visualises le truc. Et le game derrière, ça va être de faire deux choses. C'est de réduire au maximum ce qu'on appelle le lead time. Et donc tu vas regarder non pas des statistiques. Souvent les gens ont une tendance à regarder des stats. C'est quoi le temps de réponse moyen? C'est quoi, tu vois, et de regarder des grands agrégats, mais en fait tu peux pas tirer d'intelligence de ça. Essayer de catégoriser les problèmes. Alors j'ai 20% des problèmes qui viennent de la compta et puis 10% qui viennent de X ou Y. Ça paraît être une bonne idée, mais d'expérience ça marche pas. Le seul truc qui marche, c'est d'aller prendre pièce par pièce. Donc tu prends les, parce que si tu regardes 10 pièces et que t'as 20% des problèmes qui viennent d'un truc, en fait tu le verras sur tes 10 pièces, t'auras 2 pièces qui seront concernées. Tu vois ce que je veux dire? Et donc tu vas prendre les pièces. Chaque pièce, tu vas l'analyser avec pour prisme de te dire, je vais réduire le lead time. Le lead time, c'est le temps entre le moment où un client pose une question et le moment où c'est résolu. c'est pas le temps d'avant ou avec le chrono, tu vois, temps
de, voilà. De réponse.
Non, ça sert à rien, ça. Parce qu'en fait, les problèmes, ils se situent pas là, ils se situent aux interfaces. Mmh. Quand les gens se renvoient la balle, quand la personne est bloquée, elle va dire « Ah putain, j'ai une question, je vais la poser au produit. » et puis en fait, la question est potentiellement mal posée. Ou alors, le produit, il n'a pas vu. Ou le produit répond à côté de la plaque. Que sais-je, tu vois, t'as 10 000 trucs. En fait, le temps, il va s'écouler là. Aller économiser des pouillèmes sur le temps de réponse, c'est des conneries. Le temps, ça va être les allers-retours entre les gens, voilà, tu vois. Donc, tu vas essayer de réduire au maximum le lead time et mettre de la pression là-dessus. Donc, ça met le système sous tension. Et du coup, ça force à faire émerger les problèmes. Pourquoi est-ce que cette pièce, elle est là depuis une semaine? Ou à l'époque, pourquoi est-ce qu'elle est là depuis un an? Elle était sous le tapis, tu vois, t'avais des tickets qui dataient d'un an, quoi. Quand j'ai découvert ça, juste ils étaient pas visibles, parce qu'évidemment, pour les stats, ça se maquille. Donc, pour maquiller les stats, on les avait sortis, et donc ça se voyait pas, tu vois. Et donc, le client avait même oublié qu'ils avaient un ticket. Mmh. Et donc, tu rends tout visible, et tu vas aller regarder chaque pièce, et t'interroger pour chaque pièce, comment est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Donc, c'est un travail vraiment de longue haleine. T'as pas les recettes magiques où le truc, comme ça, c'est réglé, ça ne marche pas. En revanche, ne serait-ce que de se mettre dans une dynamique où tu réduis le lead time et tu augmentes ce qu'on appelle la chaîne d'aide. C'est-à-dire que si tu fais juste de la pression sur le lead time, ça met de la pression et ça fait exploser tout le monde. Mais ça doit être assorti à une chaîne d'aide, c'est-à-dire un team leader qui va pouvoir aider et escalader à la bonne personne, etc., qui va venir dans un mindset bienveillant de quand je viens sur un ticket qui est foireux, je vais pas chercher à blame, à trouver qui est le responsable. On va se dire, putain, qu'est-ce qui déconne dans le système? Qu'est-ce qu'on fait mal qui fait qu'on a, on a cette situation? Je sais pas si je suis clair, mais tu vois, c'est un changement assez radical d'approche où, on va s'intéresser vraiment profondément à chaque pièce, et faire, en tant que patron, tu fais derrière des go and see et tu vas voir les pièces avec les gens sur le terrain et t'essayes de comprendre, de dire, qu'est-ce que j'ai pas compris dans mon business qui déconne? Comment est-ce que je peux les aider à être meilleurs? Puis de temps en temps, c'est effectivement la personne est le problème. Mais faut pas commencer par là, parce que la majorité des gens arrivent en se disant putain, qui est responsable? C'est qui a fait la connerie, tu vois? Et on est tous comme ça à se dire ah, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Faut essayer de décaler ça.
Mais ça permet pas de régler le problème.
Rarement, ça défoule. Ça
en
défoule,
cas, pas suffisamment
mais ça permet pas de régler le problème. Parfois, c'est un problème de personne, encore une fois. Mais la majorité du temps, c'est que le système est complètement mal branlé.
Alors, c'est quoi un petit peu le...
Un exemple.
Ouais, vas-y, pardon.
On s'est rendu compte que notre système, justement, d'allocation de tickets était mal foutu. Et les tickets étaient très mal qualifiés. Donc, les gens posaient des questions qui étaient pas claires. D'une part, poser des questions qui n'étaient pas claires, et puis en plus, c'est aller aux mauvais agents, enfin, tu vois, aux mauvaises personnes. Et donc, il a fallu retravailler le funnel de je pose ma question pour qu'elle soit hyper claire. Tu vois, c'est un truc tout con, hein, mais ça paraît basique et tout le monde le fait, mais sauf que quand tu vas regarder les pièces, tu regardes, ah ouais, en fait, c'est, à cet endroit, c'est pas clair, tu vois. Et donc, tu vas de manière chirurgicale faire des modifs.
T'as peut-être des exemples en tête à nous donner de questions ou de enfin de des changements que vous avez fait permettre une meilleure allocation des questions.
Alors concrètement, ce qu'on a fait, c'est que il y avait un historiquement on avait un canal d'allocation qui quand même fonctionnait plutôt pas trop mal, qui avait été remplacé par un truc built-in de Zendesk qui en fait était tout pourri, et on a recréé une page dans laquelle on va guider les utilisateurs sur quel est le type de sujet que t'as. Est-ce que c'est un problème technique, est-ce que c'est une question, enfin, ensuite, si c'est une question, est-ce que c'est une question compta, paiement, machin, bon, ok, c'est une question compta, et là on catégorise les principales questions. On va lui suggérer des articles de centre d'aide sur, ou des ressources, des vidéos qui existent déjà. Est-ce que tu as consulté les vidéos? Oui, non. Si oui, bon, explique-moi en quelques mots ta question et puis explique-moi de manière détaillée avec un minimum de caractères. Donc tu vois, si la réponse est trop courte, on la refuse parce que ça veut dire que la personne a dit juste ça marche pas, quoi. On incite fortement à mettre du screenshot, à mettre une URL, à mettre une vidéo. Et donc on facilite tout ça. pour que ce soit super simple, en sensibilisant et en expliquant à la personne au départ, ok, vous allez devoir mettre un peu d'informations, mais du coup, vous aurez une réponse super rapide et très quali. Donc, et globalement, ça fonctionne super bien. Une fois que tu as ça, dans tous les outils un peu bien foutus de support, tu peux allouer très facilement aux bonnes personnes. Et donc, en face de ça, on a mis en place des équipes par thème. Rien de révolutionnaire, tu vois. T'as un team leader et puis une équipe en dessous sur, mettons, la problématique paiement. Donc, les tickets paiement arrivent là. Et derrière, t'as une matrice de compétences qui fait que t'as une personne qui va être plus forte sur les KYC, mettons. Donc, c'est la connaissance client. Une personne qui va être plus forte sur les collectes. Et donc, on alloue comme ça les tickets. C'est le job normalement du team leader de le faire. Il est aidé par l'outil. Donc, c'est alloué automatiquement. Voilà. Et derrière, t'as un système dans Zendesk qu'on appelle de Kanban. Un Kanban, c'est un terme un peu tarte à la crème parce que ça a été vulgarisé partout, mais un Kanban, c'est pas n'importe quoi. Un Kanban, c'est un truc où pour voir justement l'état de la production. C'est en ligne, tous les outils sont des outils de transmission d'information où tu cherches à rendre visible des choses que tu ne voyais pas avant. Et donc dans un Kanban, tu dois voir le lead time. Donc tu vois, typiquement, tu te rends au poste de travail d'une personne au support. Tu vois immédiatement quels sont les tickets bloqués. En ligne, on appelle ça des red bins. Quels sont les tickets en attente, qui sont en attente quelque part, mettons, au product. Et puis, quels sont les tickets ouverts dans ta file.
Oui.
Et en plus de ça, tu as un truc hyper important qui est un lead time que tu n'as quasiment jamais, en fait. C'est depuis combien de temps le truc est ouvert. Donc, le premier truc que tu regardes, c'est ce truc. Pourquoi est-ce qu'il est ouvert depuis 3 jours? C'est pas normal, quoi. Et donc, tu vas d'abord t'attaquer au truc compliqué avant de t'attaquer au truc facile. J'espère que ça répond de manière à peu près claire. Peut-être pas passer trop de temps là-dessus parce que si les gens sont pas passionnés de support. Ouais. Mais c'est une méthode qui est infaillible. Si vous voulez vous former un peu à ces sujets, déjà que les gens hésitent pas à me contacter. Pour leur montrer concrètement comment le truc marche. Et moi, j'invite vraiment à casser les modèles traditionnels, tu vois, de call center, de machin, des trucs où c'est du bête, où on va produire de la ressource à fond, gérer du ticket à fond, recruter comme des malades, sans chercher à faire monter en compétences, sans chercher à s'interroger sur chaque pièce individuellement. Tu vois, nous, le patron des ops, il a tous les jours, il va regarder tous les tickets avec le lead time le plus élevé. Et puis il s'interroge avec les autres execs. Comment est-ce qu'on résout ces trucs, mais de manière profonde, pas en surface, quoi. Et donc la conséquence, c'est qu'on est passé de 1300 à 100 tickets en quelques semaines, et puis on est resté sur ce rythme depuis. Quoi.
Et en termes de, tu vois, c'est un changement d'approche, comme tu l'as dit, vis-à-vis de tes équipes. Comment est-ce que tu as conduit ce changement? Parce qu'il a fallu changer la manière dont le support était perçu, de ce qui était la bonne manière de traiter un ticket, la relation client aussi en général. Enfin voilà, comment est-ce que tu t'y es pris?
Comme je te disais, tu as deux indicateurs clés, lead time, qualité. Lead time, temps de résolution, qualité au support, nous on utilise la satisfaction client. Les deux sont super liés en fait, hein. Tu pourrais prendre que le lead time. Et d'ailleurs au départ on a pris que le lead time. Parce qu'un gros problème qu'on avait, c'est que le gars qui gérait le support, il avait un dashboard en daily, tu vois, stand-up tous les matins. Il présentait un dashboard de KPI. Sur le truc, tu devais avoir 15-20 KPI, quoi. Donc des indicateurs, alors des indicateurs, t'en avais, quoi, tu vois. Donc ça aurait plu à des VC, tu vois. T'avais des trucs dans tous les sens. C'était beau, quoi. Ça faisait pro, mais le problème c'est qu'il y en avait tellement qu'en fait les gens ils savaient pas où donner la tête. Et donc le premier truc que j'ai eu à faire, c'est de leur expliquer, vous oubliez tous ces KPI, hein, parce qu'on leur demandait de se concentrer sur. Et le seul truc que vous regardez, un seul, c'est le lead time. Juste ça. Et en fait, ça a été hyper dur, quoi, parce que ils voyaient pas l'intérêt concrètement. Non, bah au départ,
ils voyaient pas l'intérêt.
Au départ, non. Tu vois, c'est pas ça qui va nous sauver, quoi. Tu vois. Mais l'avantage, c'est comme moi, j'ai une très grosse relation de confiance avec les équipes. En fait, ça s'est fait relativement bien. au support, en tout cas, les gens sont dit, bon, de toute façon, on essaye. c'est tellement la merde aujourd'hui qu'on perd pas grand chose à essayer. Et donc ça, on a gagné des points relativement vite, ce qui a permis d'embarquer tout le monde. Donc ça, c'est, je pense, la zone de la boîte sur laquelle ça a été le plus facile de déployer le Lean. Mais ça a demandé que moi je passe beaucoup de temps à expliquer, à aider tout le monde, c'est-à-dire les team leaders et puis les personnes in charge au-dessus, à changer d'attitude, tu vois, à justement ne pas y aller avec l'intention de blame, de désolé, j'ai pas le mot.
Moi je l'ai pas là, du coup, bon, d'accabler quelqu'un, en tout cas.
Qui a pu faire la bêtise, mais de s'interroger ensemble avec la personne sur OK, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, tu vois, parce qu'en fait ça c'est un réflexe qu'il y a énormément d'entreprises, de chercher ça et de pas être suffisamment calme face au sujet, de se dire comment on s'améliore ensemble et comment est-ce que je te fais monter en compétence. Donc ça demande un temps phénoménal. Et ça ne marche que s'il y a un énorme drive de tout en haut dans la boîte. Le Lean, ça ne peut pas se déployer différemment.
Et peut-être juste un complément là sur la partie support. Est-ce que du coup, alors je ne sais pas comment vous étiez organisé avant de ce point de vue-là, mais est-ce que ça t'a poussé dans cette optique de conduite du changement à peut-être repenser la manière dont étaient fixés les objectifs et l'incentive, tu vois, des équipes support.
On a fait deux changements dans l'orga et les objectifs. Le premier changement, c'est qu'il y avait eu une déspécialisation des gens en se disant, on veut que l'organisation soit résiliente, et donc un agent, enfin je dis agent, c'est le terme, une personne, hein, c'est pas du tout dégradant. Un agent peut répondre à tous les tickets, tu vois. Et comme ça, si on a un pic, et ben au moins ça encaisse ça. En fait, ça c'était une grosse connerie parce que touche à tout, bon à rien, quoi. Et donc on a respécialisé, on a recréé des équipes avec un team lead. Il faut un team leader systématiquement. Moi, je crois pas au truc complètement flat. Bon, alors ça, je vais me faire des ennemis, mais moi je pense qu'il faut quand même. Et ça veut pas dire c'est un petit chef. C'est quelqu'un qui va bosser avec l'équipe, etc. Tu vois, mais une petite team resserrée sur de 4 à 8 personnes sur un thème. Donc ça, c'est le premier changement. Et ensuite, sur le volet incentive, justement, il y avait des objectifs qui avaient commencé à être mis sur le nombre de tickets auxquels les personnes répondaient. On a cassé ça. On a enlevé les objectifs. Plus d'objectifs. T'as plus d'objectifs. Justement, parce que en fait, on c'est des objectifs bêtes. Donc, on se met des objectifs en tant qu'équipe de se dire il faut réduire le lead time, diviser le lead time par deux. Au début, c'était ça le game, hein. C'était on divise le lead time par deux. Puis, grosso modo, tous les ans, l'objectif est de diviser le lead time par deux. Et donc, on suit ça. Et ensuite, par personne, tu vas voir où la personne se situe et tu vas l'aider à monter. Hein. Et derrière, ça se ressentira dans la REM au moment où on va changer, tu vois, où il y a un changement de rémunération en début d'année, où il y aura une évaluation du niveau de la personne. Mais je pense que sur du support en particulier, c'est assez contre-productif de mettre des targets individuels. Tu pourrais mettre des targets d'équipe, hein, pourquoi pas, tu vois, mais même ça, je vois pas trop l'intérêt. Parce que du coup, ça rend les gens individualistes. Alors que si ils sont dans le même bateau, bah en fait ils vont céder, tu vois. Ils vont dire, ah toi comment tu fais, et c'est con, mais les gens étaient commencés, tu vois, là où au départ il y avait une putain d'ambiance dans cette équipe, c'était le feu, ils commençaient à rouler pour eux, quoi. Et donc on a cassé ça, hein. Le seul endroit dans la boîte où on a des objets, c'est le comité de direction, mais bon, ça c'est un peu plus classique, tu vois, c'est corrélé à la croissance de la boîte dans l'ensemble. Et puis les commerciaux. Mais même les commerciaux, je me pose la question. Je suis pas convaincu que ce soit le meilleur setup. Après, les commerciaux aiment le cash, hein, donc ça. C'est...
ils ont besoin de pouvoir se raccrocher à ça quand même. C'est clair. Ok, super, super intéressant là, tes insights sur le support. Donc, si je résume, vous avez changé la manière dont vous fixez vos objectifs. Hein, comme tu l'as dit, il y en a plus. Et s'il y a un seul KPI à regarder, c'est le lead time. Vous avez réintroduit on va dire de la spécialisation dans les équipes avec des team leads à chaque fois. Et vous avez également revu la manière, enfin les workflows. Qui captait, on va dire, les questions de la part de vos clients pour que ce soit le plus clair possible et que derrière vous puissiez apporter la réponse la plus quali possible. Exactement. Dans un minimum de temps.
Et ça, sur le volet workflow, j'insiste sur un truc, c'est que on a supprimé 1 million de process qu'il y avait. Là, il y avait des process dans tous les sens. On s'en fout, les process ils sont pas lus. Les process on les a mis dans le système. Tu dois pas devoir penser de, ah ouais, quand j'ai un problème, il faut que j'appuie sur un bouton pour que ça se voit. Non, il faut que le lead time, il est trop élevé, ça se voit. Tu vois. Et donc, le côté, comment est-ce que tu fais pour que ton système rend les choses visuelles? C'est peut-être un peu abstrait dit comme ça, mais c'est super important. Il faut que les problèmes se voient. Et que quand le team lead arrive sur le poste de travail, il voit direct. Il est pas, ouais. Non, mais ça, c'est un point fondamental. Il faut pas attendre que la personne qui est bloquée vienne lever la main pour dire qu'elle est bloquée. Mais ça, c'est valable en support, c'est valable en dev, c'est valable partout. Souvent, t'as des managers qui se plaignent, machin, il est pas venu me voir alors que ça allait pas, il était bloqué. Bah ouais, mais est-ce que t'as mis en place les outils pour voir, toi? Quand t'as la tête dans le guidon, tu vas pas forcément arriver à prendre le recul, de lever la main et dire, j'ai besoin d'aide. Puis en plus, t'as pas forcément envie de dire, j'ai besoin d'aide, tu vois. Même s'il faut inciter les gens à le faire. Donc il faut que ça se voit. Si tu le vois, t'as même pas besoin d'attendre que la personne lève la main. Tu viens, tu dis bah voilà, je vois qu'il y a ça. Est-ce que je peux t'aider, tu vois? Oui, non. Enfin et voilà, j'insiste sur ce point. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'attendre que la personne prenne les devants pour dire j'ai besoin d'aide. Enfin, c'est un mix des deux, tu vois. C'est un mix des deux. Mais ce point de voir les problèmes est fondamental.
Ouais, ah, mais ça, j'imagine que là-dessus, que ce soit avec Zendesk ou avec, j'imagine, voilà, les reports que vous avez fait en sorte de remonter tout ça à la surface. Comme tu l'as dit, il y a des tickets des fois qui datent peut-être de 1 an, ils sont plus dans les stats. Là, maintenant, vous les faites remonter et donc comme ça.
Mais tu sais, ça s'applique très bien à tout un tas d'autres zones de la boîte. Hein. Tu prends le dev, c'est quasiment la même chose. Hein. Le dev, c'est une chaîne de production. Hein. Tu vois, t'as des étapes de product, de dev, de test, de machin. Et puis les bugs, c'est comme des tickets. Hein. Les bugs, il faut voir le lead time sur les bugs. Depuis combien de temps le bug est ouvert, quoi. Le sujet, c'est pas juste de catégoriser bug critique, bug machin. Enfin, tu sais, tu fais 10 catégories et puis tu vas faire des stats sur tes catégories, mais ça, ça sert à rien. Quoi. Tu prends les tickets les plus vieux. Puis évidemment, t'as des tickets vraiment critiques, mais et en t'attachant à ça, eh ben, tu driveras beaucoup plus. C'est beaucoup plus simple. C'est super simple. Et donc, c'est plus ça pour tout le monde. Et puis, t'en tires beaucoup plus d'insight.
Je te propose d'avancer. On a fait un gros point là-dessus. C'était passionnant, mais on a pas mal d'autres sujets à traiter. Pendant cette période, il y a eu quand même d'autres choses qui se sont passées, notamment sur un plan humain. Tu m'avais dit 2 choses. La première, c'est... le départ d'un de tes associés du bateau, mais aussi pas forcément dans la même catégorie, mais t'as eu des départs de C-level, de premier employé, parce que à se connecte avait quand même pas mal d'années au compteur, hein, 10 ans, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, dans quel ordre ça s'est fait, comment est-ce que tu as géré les choses, est-ce que tu peux nous partager un peu tout ça?
Par le deuxième qui est le plus rapide, je pense, et puis après parler de Pierrot. Départ des salariés qui étaient là au départ, hein, qui étaient là depuis très longtemps. La boîte a 10 ans, hein, maintenant quasiment, là on va fêter bientôt nos 10 ans. Et ça, c'est sûr, c'est un coup. Alors après, en fait, nous, on était une boîte hyper soudée et avec une culture hyper forte. Et ça, c'est l'avantage qui est que, du coup, tout le monde, tu vois, joue ensemble, etc. Puis les inconvénients, c'est que du coup, quand quelqu'un part, c'est la fin du monde. En tout cas, c'était un peu la fin. Et les premiers coups, bah, je le ressentais un peu comme ça, tu vois. C'est ah putain, c'est un peu la famille, quoi. Sauf qu'une boîte, c'est pas la famille. Et c'est normal, c'est la vie d'une entreprise d'avoir des gens qui partent, tu vois. Et ça, les gens qui ont pas trop vécu le truc sont hyper affectés quand quelqu'un qui était là depuis longtemps part. Et c'est juste normal, tu vois. Donc comment je l'ai vécu? Bah, premier coup, ça fait un peu mal, et puis à la fin, tu dis, bah non, mais c'est juste the way it is, tu vois. Et bien sûr, il y a des gens qu'on a envie de garder le plus longtemps possible parce que c'est génial. Il y a des gens qui étaient un peu à bout de souffle. C'était bien qu'ils partent. Tu vois, y avoir du sang neuf d'une certaine manière. En fait, c'est hyper, hyper, hyper important. Sinon, tu t'empattes un peu, tu vois. Ça devient la bande de copains, quoi. Et il faut pas que ce soit ça. Une boîte, ça doit être dans une bonne ambiance, mais c'est pas une bande de potes. Et donc ça, bah du coup les départs, il faut expliquer aux gens. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, il y en a qui disent ah ouais, mais il y a des départs, mais ouais, mais c'est normal et c'est bien en fait, tu vois. C'est pas toujours évidemment, mais c'est normal. Alors si t'as un turnover de malade, c'est pas normal. Mais on a un turnover qui est tout à fait raisonnable. Et pour nous, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Au départ, je me disais, putain, il faut que les gens y restent le plus longtemps possible. En fait, non, c'est très bien d'avoir du renouveau. Donc voilà. C'est complètement c'est ça. Et sur le premier point, ouais.
Peut-être juste là-dessus, sans trahir de secret, est-ce que t'as eu peur d'avoir une espèce d'hémorragie de talent, de gens qui partent en se disant ah ouais bah maintenant ça va être différent, du coup ouais je vais peut-être je me projette plus de la même manière parce que bah voilà j'en sais rien moi une plus un qui part alors, et tout enfin voilà
ouais donc ça c'est un autre sujet clairement et en fait c'est corrélé à l'autre point qui est le départ de Pierre mon associé. Ces deux trucs ont été assez concomitants. Ouais. Il y a eu le départ de Pierre et à peu près au même moment, dans la foulée, on a énormément réduit la force commerciale et donc il y avait beaucoup de départs et qui étaient concertés, si tu veux. On fait les choses bien. Alors, il y a des moments où les gens n'étaient pas au niveau, il y a des moments où ça le faisait pas. À ce moment-là, ça fout un putain de doute, tu vois. Les gens se disent, ah, mais il y a un fondateur qui se barre. Puis en plus, il y a une grosse partie, un bon nombre de gens qui se barrent, qui étaient là depuis longtemps, parce que, enfin, il n'y avait pas que des sales qu'on venait d'embaucher. Et merde, est-ce que la boîte va mal, quoi? Alors, tu leur dis, ben non, ça va, on a du cash, la boîte va bien, etc. Donc, tu dois faire un énorme travail pour rassurer. Mais tu vois, c'est sûr que ouais, ça a été un énorme challenge. Et en plus, tu vois, sur le moment, tu peux pas non plus être, tout mettre sur la table, de dire ah non, mais le modèle en fait, il marche pas. Donc, enfin, tu peux. Il y a les gens qui sont encore là. C'est touchy comme situation. Ça demande quand même d'expliquer avec le plus de transparence possible. De montrer aux gens qu'on a encore les reins solides, suffisamment de cash et que on prend une trajectoire qui est la bonne. C'est juste est-ce qu'ils te font confiance ou pas, quoi. Et là tu joues des points de confiance. Et donc t'as intérêt à ce que ça marche parce que sinon t'en perds beaucoup. Mais ouais, j'ai eu clairement peur d'une hémorragie, tu vois. À un moment où justement on avait réduit la voilure, où Pierre partait, putain ça a secoué, hein. Ça a vraiment secoué. Après, paradoxalement, tu sais, l'épisode de support que nous en interne on avait appelé l'opération dodo, où on a mis tout le monde sur le pont sur ce truc. Et ouais. En fait, ça a vachement ressoudé les gens et ça a été plutôt super bien vécu. Tu vois. Donc, paradoxalement.
Ah, ça a fédéré autour d'une cause commune.
Tu te retrouvais un peu comme au début où t'avais tout le monde sur le front. Et ça avait super bien marché. Donc ouais, je sais pas, j'ai pas d'insight particulier sur ce sujet de comment tu gères le départ. J'avoue que je l'ai pas vraiment, théoriser ce truc. Mais déjà, enfin la com, hein, c'est la clé, et la communication coordonnée, c'est-à-dire une erreur qu'on avait beaucoup faite au départ, c'était de pas suffisamment s'entendre avec la personne, avec les personnes qui sont au courant sur comment on l'annonce, quand on l'annonce. Et donc tu vois, t'avais des bruits de couloir, t'as machin qui va dire ah ouais bah en fait il y a un truc qui part, et donc ça crée du bruit complètement inutile. Ça c'est un petit truc tout simple, c'est on se met d'accord sur les départs, ils sont annoncés le lundi à tout le monde en même temps dans chaque équipe avec les raisons du pourquoi. Bon, c'est peut-être le petit tips qui est pas révolutionnaire. Mais...
Non, mais, et peut-être juste un dernier point là-dessus. Du coup, quand t'as des gens, je dirais des tauliers comme ça de l'entreprise qui ouais. partent là du jour au lendemain, t'as peut-être aussi des gens qui s'attendent ouais. à monter derrière, à prendre la place, et donc ouais. à monter en responsabilité. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que si toi, par exemple, tu vois pas la personne prendre le relais, faut quand même, faut recruter potentiellement en externe, et donc faut réussir à expliquer ça. Est-ce que c'est une situation super à laquelle tu as été confronté?
Très très souvent. En fait, quand le N plus 1 part, la personne en dessous a l'impression que tout d'un coup, en fait, elle devient beaucoup plus senior. Potentiellement elle a les épaules pour prendre le poste, mais c'est en fait rarement le cas parce que ça n'a pas été préparé. Sauf si ça a été préparé. Et donc ça, c'est incroyablement difficile à gérer. Et je trouve que la méthode, c'est que je suis relativement cash. En fait, on se met d'accord sur, en fait, le niveau de jeu, c'est ça. Tu vois, avec des critères très clairs sur le poste, c'est celui-là. Voilà les attentes. Voilà, tu vois, on rédige ce qu'on appelle une scorecard, tu vois, qui est fiche de poste avec les attentes, les skills nécessaires et puis les objectifs. Et est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, tu vois? Et on a une discussion assez cash avec la personne, et souvent, en fait, tu vois, ça évacue le problème. Puis il y a des moments où ça évacue pas, et si la personne a un ego surdimensionné et qu'elle veut pas écouter, eh ben peut-être qu'elle a plus sa place dans la boîte. Je suis un peu dur, mais tu vois, il y a un échange, on essaye de, mais il y a des moments où moi je pense que c'est une erreur de pas acheter des gens, et on l'a fait sur des postes où en fait c'est trop tôt, tu vois, il faut séquencer les choses. Donc ça, ouais, c'est un truc qui est fréquent, il faut tenter de le préempter. La meilleure manière de le préempter, et ça on n'est pas encore au niveau, je trouve, aujourd'hui, c'est un truc qu'on travaille beaucoup, mais c'est d'être que chaque personne dans la boîte soit très claire sur où elle est, tu vois. Donc c'est le job de chaque manager d'être hyper clair sur la scorecard de chaque personne dans son équipe, d'être clair sur là où on est bon, là où on est moins bon. Tu vois, on n'y est pas encore, mais on est quand même très bien huilé là-dessus. T'as un process de bi-yearly où tu vois, on a une discussion assez détaillée sur tous les points. Là où on n'est pas forcément bon, c'est que c'est inégal en fonction des managers. Il y en a qui font super bien, il y en a qui sont pas encore au niveau, mais ça progresse. Et donc, si avant que le truc n'arrive, on est déjà clair, tu vois, sur le niveau, ça facilite vachement la discussion derrière. Donc ça, tu le préemptes, et puis après je j'ai pas plus de recettes que ça, quoi.
Non, mais de toute façon, enfin, c'est pas évident. Mais comme tu l'as dit, je pense que ça vient du décalage, en fait. La difficulté vient du décalage entre ce que potentiellement la personne perçoit si tu fais pas la review biannuelle et toi, ta perception de là où est la personne.
Que tu vois, si le sujet n'a pas été cadré avant, comme je disais, où on fait ce travail régulièrement de savoir où est la personne, potentiellement, même moi, je suis à côté de la plaque. Tu vois, peut-être que mon jugement est injuste, tu vois. Mais juste parce que j'ai pas assez d'éléments, quoi. Alors après, quand on décide de faire ce genre de move, on fait de toute façon un mini recrutement en interne. Hein. Donc on refait passer des étapes pour tester la personne. Le problème étant que quand le truc marche pas, c'est quand même assez merdique, hein. Donc bon, c'est assez limite. Mmh. Après sur les,
ouais,
sur
les... ouais, potentiellement ouais, la personne n'a ouais, pas envie de rester,
oui,
quoi.
Oui. oui, c'est un aveu d'échec. Mais bon, on a déjà eu plusieurs personnes qui se présentaient sur le même poste et finalement il y a une personne qui a été nommée et ça a été accepté. Tu vois, typiquement au support, on a eu ça, quoi. Non. Sur un poste de team lead. Okay. Et ouais, juste un truc sur les départs. Moi, une de mes recos, c'est que une personne qui doit partir, il faut qu'elle parte le plus vite possible. Et ça, c'est aussi un truc un peu dur, hein. Alors, je suis désolé, je vais peut-être passer pour un connard à avoir autant de trucs catégoriques comme ça, mais c'est pas une question d'être sympa ou bienveillant ou pas bienveillant. C'est justement en fait une fausse bonne idée que la personne reste longtemps. Il y a quelques cas hyper spécifiques où il y a une grosse passation à faire, où c'est nécessaire, mais en fait, si la personne a décidé de partir, elle est plus tout à fait dedans. Si nous on a décidé qu'elle doit partir, il faut pas qu'elle reste trop longtemps. Et on a fait des erreurs par moment, tu vois, de ça se passe super bien avec la personne. Elle a envie de partir mais pas pressée et nous on n'est pas pressé non plus parce que ça se passe bien. Mais et du coup, elle reste 6 mois, même on a fait jusqu'à 1 an. 1 an à la fin la personne elle était cramée, quoi. Heureusement qu'elle était de super bonne composition, mais il y a beaucoup de moments où en fait ça se passe pas du tout comme ça. C'est oui, je vais être à fond jusqu'au dernier moment. Mais en fait, des deux côtés, on n'est plus à fond parce qu'on se projette plus. Et donc, on fait juste traîner le truc en longueur. Mmh. Et c'est une fausse bonne idée. Et on a l'impression que ouais, mais du coup, ça fait quelqu'un pendant le temps qu'on recrute, etc. Mais ça c'est des conneries. Il faut.
C'est quoi la bonne durée?
Prendre un max. Tu vois. Si ça se passe vraiment mal avec la personne, c'est le plus vite possible. À la limite, part demain et puis. elle est quand même rémunérée. Ça s'est passé. Très peu, mais ça s'est passé. Et puis c'est en bonne intelligence. Je pense que deux mois, tu vois, 2 mois est un bon ordre de grandeur, quoi. 2-3 mois. Et même 3 mois, c'est long, hein, en fait.
Ouais, parce que forcément, comme tu as dit, tu te projettes plus. Les deux parties ne se projettent plus. Il n'y a plus de lancement de projet. Enfin, tu peux pas confier des responsabilités à une personne dont tu sais qu'elle va partir dans deux mois.
De chaise, donc tu te dis, ah ouais, ça va me faire économiser du temps. Mais non, parce que tous les nouveaux projets, tu peux pas lui confier. Et la personne, bah, elle s'y retrouve pas non plus. Et puis en plus de ça, bah, t'as, comme elle est plus dans le game, en fonction de son mindset, bah, c'est pas forcément terrible en termes de communication d'équipe, tu vois. C'est l'impact que ça peut avoir d'avoir quelqu'un de désengagé. C'est quand même pas top, quoi. Donc voilà, moi ma reco et quand il faut prendre une décision, il faut la prendre la plus vite possible sur ces sujets-là.
Ouais,
c'est le hire slow, fire fast. Mais c'est pas juste fire, hein, c'est même quand la personne elle-même veut partir. Hein. On a beaucoup de gens qui veulent partir, mais qui me disent non, mais j'ai du temps. Non, en fait tu veux partir, t'as pas trop de temps. Quoi. on va t'aider, tu vois, du coup rebondir, etc., à le faire bien. On va le faire ensemble, mais il faut pas que ça s'éternise. Quoi.
Très clair. Merci pour les recos. Je te propose de parler de ton fondateur, enfin de ton associé au final qui est parti. Pareil sur cette période-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais dit que tu avais pas mal de, en fait que c'était un cas qui arrivait très souvent et pour lequel bah tu avais beaucoup de questions de la part de fondateurs de boîtes. Donc ouais, très curieux que tu nous partages un petit peu ton expérience.
Super intéressant. Moi j'avais déjà vécu sur la précédente boîte un départ d'associé qui s'était fait dans des termes un peu plus tendus, même si à la fin ça s'est bien résolu, mais il y avait moins d'enjeux. La boîte était beaucoup plus petite et ils étaient restés moins longtemps. Et donc on a monté la boîte à 3 avec Sylvain qui est toujours là, qui est CTO, et Pierre qui était directeur sales and marketing en gros, qui était vraiment devenu et toujours d'ailleurs un très bon pote. Et j'y ai toujours parce que c'était pas évident, mais ça s'est super bien passé cette histoire. Et grosso modo, c'était courant 2021. À un moment, il s'y retrouvait plus. Ça faisait quand même 7 ans hein, déjà qu'on avait monté la boîte. Comme tu le sais, monter une startup, c'est assez éprouvant. Tu donnes beaucoup d'énergie. Et donc, il avait besoin de souffler un peu plus et un peu plus en phase avec le rythme de croissance un peu effréné qu'on doit tenir. Je veux dire, même tenir 50% de croissance, c'est incroyablement difficile. Et donc c'est et avec des sujets perso, tu vois, j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail des questions perso qui ont mené
ouais,
à faire
sûr,
ça.
Sur la partie perso.
Mais c'est lui qui a pris les devants et décidé que c'était plus le bon move et qu'il fallait qu'il parte. Mais justement, tu vois, c'est passé exactement ce dont on vient de parler, qui est bon, je vais partir, mais je suis pas pressé. On va le faire, tu vois, à la prochaine grande étape, au prochain tour de table ou que sais-je. Mais je vais accompagner la transition pendant au moins un an. Et donc, bon, évidemment, quand tu te prends ça, bah c'est une sacrée claque, quoi. Tu te dis putain, bon ça va secouer.
Bon, tu l'avais pas vu venir.
Un peu quand même, parce que on échangeait régulièrement et tu vois, je sentais que ça fonctionnait plus tout aussi bien qu'avant. Ça m'a pas tant surpris que ça. Mais en revanche, je ne l'avais pas du tout préparé, mais zéro, parce que c'était pas non plus un truc que j'attendais, quoi, tu vois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé à peu près la terre entière, des entrepreneurs qui avaient déjà vécu ça. Et la bonne nouvelle, c'est ce que tu disais, c'est que j'ai découvert que en fait, c'est un truc hyper classique. Quand ça t'arrive, t'as l'impression que c'est la fin du monde, que ça va être la merde, que c'est la cata, quoi, des associés qui se fritent. Mais en fait, ça arrive tout le temps dans toutes les boîtes et c'est hyper rare que ça se passe bien, aussi bien que ça s'est passé nous. Et oui, moi je me fais très souvent contacter sur ce sujet parce que bon, au-delà de ça, maintenant certaines personnes savent que ça m'est arrivé, donc moi qui viennent chercher des conseils, mais moi c'est arrivé à pas mal d'entrepreneurs autour de moi. C'est arrivé à pas mal d'entrepreneurs à qui j'ai échangé même tout récemment cette semaine, hein, tu vois. Et pour des raisons de en fait on s'y retrouve pas, on n'est plus aligné. Il y en a un qui a pas envie de mettre le même niveau d'énergie, ou il y en a un qui est pas au niveau, enfin tu vois ce genre de truc. Et c'est très très difficile à gérer. Et alors nous, ce qui a aidé, c'est deux choses. Bon, le fait que Pierre soit un gars super honnête. Et qui a voulu faire les choses en bonne intelligence, et donc ça c'était quand même une chance, parce que c'est pas toujours le cas. Il a quand même beaucoup mis son ego de côté pour être dans une posture constructive, quoi. Donc ça c'était ça c'est le premier prérequis. Deuxième prérequis, c'est d'avoir un pacte très bien ficelé qui pose des bases claires, en fait. Donc le pacte d'associés, hein, tout le monde connaît, hein, qu'on crée souvent au départ ou quand on fait une levée. Et nous, les clauses de lever étaient relativement bien ficelées. Tout simplement, on a pris le pacte Galion. Donc s'il est en ligne, hein, faut aller sur le Galion, okay. Project.
Ouais, il est en ligne, voilà. Je le mettrai en description aussi.
Et c'est bien parce qu'en gros, ce pacte, il dit quoi? Il dit qu'il y a un vesting. Donc en fonction de combien de temps la personne est restée, elle garde plus ou moins de parts. Les parts qui sont non vestées sont répartis sur les fondateurs qui restent, parce que c'est eux qui prennent le plus cher, et puis en partie sur l'ensemble des associés, donc y compris les investisseurs. Donc je trouve que ce setup est très bien, c'est très bien expliqué dans la term sheet Galion, ça elle doit s'appeler comme ça. Je vais pas aller dans le détail, mais donc ça c'est vraiment vraiment efficace, et ça pose les conditions de c'est quoi une clause de lever. En gros, le lever, c'est grosso modo la personne part, cette clause s'applique, quelle que soit la raison, parce que c'est toujours une galère de négocier les clauses de lever, sauf si c'est vraiment une faute lourde où là la personne part. Mais donc le fait d'avoir donc la personne part avec une partie des parts qui sont non vestées au nominal, donc qui donnent grosso modo, et l'autre partie des parts qui sont vestées, qui peuvent être rachetées par les actionnaires. Et donc que nous on pouvait racheter à faire market value, conditions de marché à définir. Et là, voilà, c'est typiquement le genre de sujet où il peut y avoir de la fight. Ça s'est fait en très bonne intelligence. Ouais. Et comme ça s'est bien fait, c'est plutôt nous qui sommes arrivés avec une proposition au board et qui était alignée. Donc, grosso modo, il est reparti avec une partie, il a gardé une partie de ses parts, donc il reste embarqué dans l'aventure, donc c'est quand même super cool pour lui. Et pour nous, enfin, tu vois aussi, je trouve, et il y a une partie de ses parts qui lui a été rachetée, donc ça lui a permis d'avoir un peu de fonds pour la suite. Et donc ça, tu vois, ce deuxième volet d'avoir un pacte hyper clair, bien ficelé, il est clé, hein. Faut pas le négliger, parce que souvent les VC disent non, mais on s'en fout de ces clauses, les livers, machin. Enfin, ils disent ça pour négocier vite, parce que c'est des clauses sur lesquelles.
Je suis surpris de ça, tu vois.
On passe beaucoup de temps sur la négo du livre, mais ils vont avoir tendance à te dire non, mais de toute façon, ça c'est un cas théorique, machin, pour négocier des clauses qui les arrangent. Moi, j'étais très très content d'avoir insisté pour et pas lâcher, pour avoir un pacte qui soit bien équilibré. Et le pacte, d'ailleurs, protège autant les investisseurs que les fondateurs restants. Parce que tu vois, nous, on aurait pu aussi être dans une situation où on se retrouve avec un actionnaire qui a une grosse part du capital, mais qui n'apporte plus la valeur, enfin qui bosse plus. Enfin, ça aurait été un peu gênant. Et là, c'est un setup qui est équilibré pour tout le monde. C'était bien. Et donc, ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est celui que j'évoquais, c'est le quand la personne part. En l'occurrence, il est parti à peu près au bout de 6 mois, ce qui est déjà super long. Heureusement, encore une fois, c'est un mec bien qui jusqu'au dernier mile, il a aidé. Mais quand même, moi, ça m'a rendu la tâche super difficile, parce que sur la fin, tout le monde sait que le fondateur part, et il est encore là. En fait, ça crée une zone de trouble, de flou, tu vois, qui est dure à gérer. Parce qu'en parallèle, justement, t'avais les départs dont on parlait, t'avais des réorganisations, tu fais monter des gens. Et les gens que tu fais monter, ils ont pas tout à fait la légitimité, parce qu'il y a encore le fondateur. Tu vois? Moi, il y a un, je vais pas dire qui c'est, mais il y avait un fondateur hyper connu qui m'avait dit, il faut qu'il soit parti dans un mois. Un mois, quand même, c'est un peu dur, quoi. Donc, je suis pas aussi drastique. Je dirais oui quand ça se passe mal, clairement. Il faut qu'il soit parti le plus vite possible. Quand ça se passe bien, tu peux quand même l'organiser sur quelques mois, mais il faut le faire très vite. Et ça a été un gros, gros sujet de discussion entre nous, où en fait, et je le comprends totalement au départ, il s'est dit, mais attends, mais ça, je comprends pas, j'ai pas envie de me faire jeter dehors non plus, quoi. C'était pas l'idée, mais tu vois, c'est pas sain, quoi. Ça fonctionne pas. Et donc moi, je sais pas si tu veux qu'on aille dans plus de détails que ça, mais voilà grosso modo comment ça s'est passé.
C'est quoi un petit peu les points où ça aurait pu, je dirais, mal se passer? Parce que, comme tu l'as dit, vous, ça s'est relativement bien passé, mais ça c'est pas toujours le cas, voire même rarement le cas. T'as parlé de faire market value pour acheter les parts. Enfin, c'est quoi un petit peu les points sur lesquels il faut être vigilant?
Je vais me placer du côté de la boîte. Pas du côté de la personne qui part. Si t'es du côté de la boîte, premier truc, c'est qu'il faut être hyper clair sur tes droits, donc ton pacte, tu vois, et savoir, en fait, connaître ton rapport de force. Donc là, je rentre dans de la négo, et c'est une situation de négo dans l'absolu, hein. En l'occurrence, qui peut être faite en très bonne intelligence, faut que ça se voie à la face, c'est le cas. Donc, faut être hyper clair sur c'est quoi tes droits, et qu'est-ce que tu peux faire si la personne en face joue au con. Est-ce que tu peux la virer en bad liver? Et je le dis assez facilement, parce que c'est arrivé sur une des boîtes que j'ai suivi très près, où le fondateur était très très toxique, et il a fallu le sortir manu militari. Et sortir manu militari, ça veut dire âgé pour sortir la personne, licenciement abusif certes, mais licenciement quand même, enfin c'est très à coup d'avocat horrible. Donc en fait, il faut très rapidement être clair sur tes droits, ce que tu peux faire, te faire accompagner par un avocat le plus vite possible, te faire accompagner par des entrepreneurs le plus vite possible, avant même éventuellement en parler, tu vois, des business angels ou des gens qui entourent le projet, ça c'est super. Mais avant d'aller parler au board, moi ma reco c'est d'être quand même assez clair sur sa stratégie. Idéalement, en fonction de la relation qu'on a avec la personne, en avoir déjà parlé avec elle, parce que c'est plus facile d'arriver avec une position commune que de se faire dicter les choses par le board. Tu vois ce que je veux dire?
Donc déjà, vous en discutez entre vous.
Mais encore une fois, ça dépend. Ensuite, ça dépend de la posture de la personne. Hein. Si la personne elle est pas du tout dans l'écoute, là, il faut mettre le board direct dans la boucle et ils pourront aider. Sachant que le board peut jouer ce rôle-là. En fait, il faut que la personne sente qu'elle a tout intérêt à partir dans des bonnes conditions. C'est comme dans tout départ, tu vois, d'une certaine manière. Hein, mais elle a pas intérêt à jouer au con parce que dans ce cas-là, elle risque de tout perdre. Et elle peut pas faire n'importe quoi parce que, enfin, si la personne joue contre la boîte, bah, c'est faute lourde et là, elle part vraiment avec rien du tout. Pour moi, il faut être super clair sur les forces qu'on a et puis expliquer à la personne que, ben, être super clair sur ce que c'est des conditions qui sont faires. Tu vois, souvent, les gens qui partent vont avoir des ambitions de valo démesurées. C'est-à-dire, non, mais la boîte, elle vaut, je sais pas quoi. Et puis surtout en ce moment où t'as des valos super élevés. Tu vois? Et donc expliquer, bah non, en fait, c'est quoi une valeur raisonnable. Et puis en plus, normalement, quand t'as la liquidité, t'as un discount. Tu vois. Souvent, un discount de liquidité, c'est 20% l'ordre de grandeur. Et donc, faut pas t'attendre à partir non plus avec le gros pactole potentiellement. Tu vois. Et faut manage expectations très très vite, super vite. Et puis expliquer que toi, t'es là pour aider et faire en sorte que ça se passe bien. Les VC potentiellement, ils sont pas du tout là pour jouer tendrement, tu vois. Et donc voilà. Et après, quand ça se passe vraiment mal, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des médiateurs. Il y a des gens qui peuvent aider au milieu, tu vois, qui sont souvent d'anciens entrepreneurs. Et parce que quand la confiance est cassée, c'est bien d'avoir une partie tierce, tu vois, qui permet de mettre de l'huile dans les rouages. Moi, je trouve ça vraiment vraiment super. Si ça peut pas être quelqu'un, une connaissance commune, tu as un entrepreneur commun, faire venir quelqu'un d'autre. Moi, je connais très bien un mec qui a fondé Liber, qui est Benoît Lassara, qui fait ça très bien. Donc, t'as ça. Et puis, si tu peux pas, ça part en coup d'avocat, quoi.
Ouais. Mais ça, c'est vraiment le scénario du pire.
Ça m'est arrivé. Pas à moi personnellement, mais sur une boîte, encore une fois, où je suis très proche, ça a duré un an, quoi. Ça a failli mettre la boîte au tapis. Problème, c'est quand t'as la personne en face qui en a rien à foutre et qui dit je préfère que la boîte aille au tapis, t'es dans une situation un peu bloquée. Là où j'ai du mal à donner des conseils plus précis, c'est que c'est tellement dépendant du contexte, tu vois, de depuis combien de temps la boîte est créée, quelle est la relation entre les personnes, etc., que c'est assez difficile. Mais je dirais que s'il y a une reco, c'est d'appeler du monde, surtout pas essayer de le faire seul, que ça permet de prendre de la hauteur. Et puis si besoin, faire rentrer un conseil ou un externe. Voilà.
Ouais, vous en parlez entre vous rapidement entre ouais. Cofondateurs. Tout de suite vous mettez les avocats dans
non la... pas tout de suite mais bon alors parce que moi j'ai une sensibilité assez forte sur le sujet, tu vois, donc j'étais hyper clair sur ce qu'on avait le droit de faire ou pas, mais si j'avais été un peu moins clair, j'aurais mis tout de suite, j'ai mis quand même assez vite pour être sûr de pas faire de conneries, tu vois, mais l'avocat je l'ai pas mis dans la boucle en mode formel au départ, c'est simplement je l'appelle, je lui explique la situation et je clarifie ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire vis-à-vis de entre fondateurs et puis vis-à-vis des VC, tu vois, vis-à-vis des autres investisseurs. Mais ouais, faut quand même le faire assez vite, ça. C'est on peut faire des erreurs un peu bêtes, tu vois.
Ouais, c'est plus pour éviter, voilà, comme tu as dit, les erreurs et faire en sorte aussi que les choses avancent rapidement, que ça traîne pas en longueur. Dans ça, l'intérêt de la boîte aussi.
Voilà. Ça te pompe une énergie. Enfin, c'est phénoménal. Il faut régler le problème le plus vite possible. Il faut aller à la vitesse des gens ensuite. Hein. Tu vois, faut pas. Tu précipites, tu vas tout cramer, mais il faut que la personne comprenne que c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça aille vite. Et oui, moi, un truc que j'avais encouragé, c'est. J'avais encouragé Pierre à appeler d'autres entrepreneurs. Tu vois, et ça, c'était hyper utile aussi parce que si tu as. Qu'un son de cloche, tu vois, souvent, mettons, c'est un CEO et quelqu'un qui ne l'est pas. Le CEO est souvent plus connecté, tu vois, et un réseau d'entrepreneurs avec qui il échange très régulièrement et l'autre personne pas forcément. Et donc, va pas forcément avoir accès aux mêmes conseils. Donc, si tu demandes conseil à quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là, le conseil sera pas forcément de qualité. Et donc, ça crée un peu une distorsion, tu vois, d'information. Et ce que tu vas expliquer à la personne, je sais pas, bah voilà, on a intérêt à aller vite. Une valeur offerte, c'est quoi, etc. Ça aura pas la même valeur si c'est moi qui le dis ou si c'est quelqu'un de plus neutre qui le dit. Mm. Tu vois, ça sera mieux entendu. Donc, faire rentrer du monde dans la boucle sans que ça soit complètement, faut pas que ça sache trop vite. Alors nous, oui, en revanche, on l'a. Ouais. Il est resté longtemps, mais on l'a annoncé à la boîte relativement tard. Et ça, c'est quand même important.
Ouais. Ouais, j'allais dire, comment est-ce que tu as justifié ce choix-là ? Enfin, qu'est-ce qui a motivé ça ?
Le fait que tu peux pas avoir une période de flottement de 6 mois. Tu vois. C'est tout simplement. Et donc, on a commencé à préparer la suite avec Pierre pendant les premiers temps. Et ensuite, on l'a annoncé. Mais après, sinon, tu vois, parce qu'on a déjà parlé, quoi. Les gens ruminent, ils se disent qu'est-ce qui se passe, et puis la situation est un peu merdique, elle est floue, etc. Donc là, elle était merdique pour nous, parce que nous, on savait. Donc ça, c'est super chiant. Donc moi, j'aurais, tu vois, dans un monde parfait, il faut pas être dans cette situation. Mais à partir du moment où tu l'es, je sais pas si c'est la meilleure recette, mais en tout cas, ça s'est super bien passé, quoi.
Ok, donc je te propose de parler d'un autre sujet, mais qui est lié hein, avec cette période dans laquelle tu as eu pas mal de challenges. Tu m'avais dit en préparant l'épisode que aujourd'hui, y avait quand même une certaine efficacité dans la boîte, hein, parce que vous êtes quand même sur un effectif restreint par rapport à votre taille. Tu m'avais dit que y avait beaucoup de... l'usage de pas mal de modèles mentaux pour gérer la boîte de manière efficiente. Est-ce que tu peux détailler un peu qu'est-ce que t'entends par
sûr.
Modèle mentaux?
Juste avant, je rebondis sur un truc que tu viens de dire. Taille restreinte par rapport à la taille de la boîte, taille d'équipe. Je pense qu'on a la bonne taille. on était probablement
oui,
sur
cette
taille. Et tu sais, souvent, le succès d'une boîte est dans l'imaginaire collectif corrélé au nombre de personnes qu'il y a dans la boîte. C'est rarement le cas. Tu vois, moi je trouve que moins t'as de personnes pour la quantité de valeur dégagée, plus la boîte est impressionnante et inspirante. Bon voilà, c'est un petit commentaire. Donc moi j'espère qu'on n'aura pas besoin de faire x2 sur les effectifs pour pouvoir faire x2 en croissance. Mais ça, on verra. Et pour céder à ça, effectivement, j'utilise pas mal de modèles mentaux. Un modèle mental, c'est quoi ? C'est grosso modo une image, un schéma visuel en général que j'utilise pour prendre des décisions. Et plutôt que de les prendre purement à l'intuition ça peut très bien marcher hein. L'intuition c'est pas un truc mal, c'est en quelque sorte l'accumulation de tes connaissances passées quoi, tes expériences passées, mais les modèles mentaux vont permettre d'avoir une approche un peu plus systématique face à un problème. Quel modèle j'utilise, et c'est un truc qui est on a pas mal parlé de Lean, mais qui est justement très favorisé par le Lean, qui est une culture très visuelle. Et à la limite prenons celui-là comme exemple. Déjà, tu vas te dire que ta boîte est donc un système. T'es en train de créer une machine d'une certaine manière, une machine intelligente avec des personnes et des. Tu vois, c'est pas réducteur, hein, pas du tout. Et donc pour ça, tu vas te baser sur un modèle qui alors dans le modèle Toyota, ça s'appelle le Toyota Production System. Dans le modèle Lean moderne, ça s'appelle le Thinking People System, et qui est, alors c'est du coup dur à expliquer sans avoir d'image, mais je vais faire de bon mieux. T'imagines une maison où t'as un toit, deux piliers, et puis les fondations, le socle, tu vois. Et donc quand tu vas créer une boîte, et juste un tout petit peu de contexte, pourquoi c'est important d'avoir des modèles mentaux? Parce qu'on prend trop de décisions un peu à intuition en ayant lu des bouquins, des articles de blog, etc., avec des grands principes. Mais là, ça permet de se dire comment est-ce qu'on crée une entreprise avec un schéma qui marche déjà, qui a déjà été prouvé par le passé, tu vois, et pas juste avec une nouvelle tambouille. Donc bah là, du rationnel, et j'applique des trucs qui ont toujours marché. Et ça, c'est important parce que on a une forme d'arrogance dans les startups tech à se dire non mais nous on innove, tu vois, on réinvente le monde, donc on va recréer des nouveaux modes de management, on va recréer tout. Et bien sûr, on les fait évoluer, mais il y a beaucoup d'intelligence dans ce qui se faisait depuis 100 ans, et il y a des trucs qui sont pas si débiles à réutiliser, tu vois. Et donc finalement, construire une bagnole, c'est pas si simple que ça. C'est incroyablement complexe, tu vois, de construire une bagnole. C'est des milliers de pièces qu'il faut assembler. T'as pas le droit d'avoir un bug en prod, tu vois. Enfin, c'est le truc doit marcher, quoi. Et t'es sur des niveaux d'exigence, de qualité, d'ingénierie qui sont phénoménaux et dont on peut s'inspirer. Donc, pour revenir au TPS, t'as le toit, c'est la valeur client. Ton obsession, c'est de te poser régulièrement la question. Donc là, c'est plutôt d'un point de vue macro boîte. Quelle est la valeur que j'apporte à tous les niveaux? Ça paraît tout con, mais en fait, on se pose rarement la question, tu vois. Tu vas dans une squad, dans l'équipe tech, quelle valeur t'apporte au client? Tu vois, tu poses la question, c'est quoi la valeur? Et tu es assez surpris parce qu'en fait, souvent, c'est pas forcément aligné. Et donc, tu la poses à tous les niveaux, à tous les étages, et dans la valeur, ben, tu vas t'intéresser à plusieurs KPI. Je vais pas trop détailler, mais tu vois, tu te poses la question de la satisfaction client d'abord, qui est le end game, c'est apporter le plus de satisfaction possible. Ensuite, t'as deux piliers. T'as un pilier qui va ce qu'on appelle le juste à temps, et tout ce qui va être tourné autour de définition de ta chaîne de production dont on a pas mal parlé, du coup, qui va être le pilier du lead time d'une certaine manière. C'est comment est-ce que tu mets la pression pour avoir une organisation où ça glisse. Enfin, tu vois, c'est ce que les gens appelleraient plus du process, mais bon, voilà. T'as ce deuxième pilier avec quelques indicateurs dedans, et puis le premier pilier, le deuxième pilier, c'est le pilier de la chaîne d'aide. Donc, pour qu'une maison tienne, il faut que t'aies ces workflows, ces process, une attention forte à livrer rapidement. Et il faut qu'en face, il y ait une chaîne d'aide qui tient la route. Parce que si tu mets juste la pression, eh ben le truc pète et puis tout le monde est malheureux, quoi. C'est comment est-ce que tu fais ce qu'on appelle du andon, c'est escalade, l'appel à l'aide. C'est comment est-ce que tu mets en place tout ce qui va aider la personne à être successful. Et le pilier.
Donc ça c'est aussi bien pardon, juste là-dessus pour bien comprendre, c'est aussi bien de l'aide humaine que de l'aide avec des systèmes qui permettent de voir un petit peu quand la personne elle a besoin d'aide, ouais, sans qu'elle ait à te le demander, c'est ça?
Voir comment est-ce que tu évites les erreurs. Je vais sur un mini modèle mental un peu plus micro qui s'appelle le Pokayoke. Désolé, c'est un peu barbare. Et puis après je finirai la maison, mais tu vois, typiquement là-dedans, dans comment t'évites les erreurs, comment est-ce que t'aides les personnes, le Pokayoke, c'est le principe du détrompeur. T'as une prise, tu veux la brancher, et t'as une petite tige qui t'empêche de la brancher dans le mauvais sens, tu vois. C'est le détrompeur. Et donc comment est-ce que tu fais, donc ça c'est l'image de comment est-ce que tu mets des détrompeurs partout pour en fait empêcher l'erreur, tu vois. Et donc quand tu vas construire un système, tu vas te poser la question de je vais pas juste compter sur la bonne intelligence des gens, même si elle est nécessaire. Je vais essayer de construire le système pour que l'erreur soit même pas possible, quoi. Donc cette attention au Pokayoke, elle est hyper importante. Donc t'as ce deuxième pilier, et ensuite t'as les fondations de la maison. Le socle de la maison, c'est la stabilité. Et la stabilité, c'est notamment la stabilité dans les équipes, tu vois. Tu vas t'interroger sur est-ce que les personnes ont les bons outils, est-ce qu'on est clair sur nos standards, qu'est-ce qu'on cherche à construire, est-ce que l'environnement de travail de manière générale est favorable. Voilà, donc tu vas te baser sur tout ce socle de stabilité. Donc dans chaque partie de la maison, en fait, elle se redécoupe derrière. Et j'invite les gens à aller regarder un TPS sur lean.org ou Institut Lean France, et il y a beaucoup d'explications là-dessus. Juste une précision, c'est une question que tu m'avais posée, c'est le lean, c'est très très difficile de rentrer dedans sans être accompagné. Donc, moi, je conseille de se faire coacher. Voilà, nous, on s'est fait coacher par un gars qui s'appelle Régis Medina, qui est un mec connu sur le sujet en France. Et il y en a quelques-uns comme ça qui vont pouvoir t'aider. Alors, eux, c'est limite une religion. Hein, donc, les mecs, faut prendre avec un peu de recul. C'est très japonais art martial. Donc le coach Lean s'appelle un sensei, tu vois.
Ouais.
Donc t'as ton sensei qui est le gars qui va t'accompagner dans ton cheminement. Bon, on adhère ou pas, mais en tout cas à la limite, tu vois, l'approche est quand même super intéressante. Et quand je dis que c'est limite sectaire, c'est que eux ont en horreur le Lean Startup qui dévoie complètement les principes du Lean et qui prend des raccourcis phénoménaux, et encore plus en horreur le Lean Six Sigma, qui est une vision assez tayloriste de la chose, où ils voient seulement sous l'angle waste process ou process, qui donne une vision du Lean où on s'intéresse pas aux gens, alors que le cœur du système, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire monter les gens en compétences et faire en sorte qu'ils nous aident à identifier les bêtises qu'on fait. Donc t'as ce Poké Yoke, t'as un autre modèle, enfin le TPS, un autre.
Donc le TPS, c'est le socle. Et le Poké Yoke, c'est un des modèles mentaux que
ouais,
tu
voilà,
as dans
le TPS,
dans
c'est la
deuxième
maison,
pilier.
Tu vois. Je dirais que dans un des piliers, t'as le Poké Yoke, dans l'autre, t'as la chaîne de production. Tu visualises tes flux. Tu dois essayer de modéliser toute ta boîte ou la majorité des activités qui ne sont pas des activités de réflexion, qui sont des activités de production. Tu dois les modéliser comme une chaîne de production. Donc tu t'imagines une chaîne de production avec des stations de travail, tu vois. T'as des workstations. T'as, je vais te donner un exemple, du moment qu'on a rencontré tout récemment, on a du graphisme dans la boîte. Donc, on fait du design graphique, tu vois. Et puis, on a rencontré un problème que rencontrent, je pense, pas mal de gens, qui est que, il y a beaucoup de temps qui était passé sur certains sujets où tu dois faire une infographie, mettons, tu vois, un schéma, et le truc ça met trois plombes, quoi. Et alors il y a de la frustration de tous les côtés, parce que t'as des gens côté business qui disent non mais je comprends pas, on se prend la tête à mettre une ombre dans un coin et à faire un truc qui prend 3 jours, et puis t'as les personnes qui sont côté design qui disent non mais je comprends pas pourquoi on met pas plus d'attention à la qualité graphique, c'est n'importe quoi ce qu'on livre, c'est ni fait ni à faire, tu vois. Et donc en fait, on a et puis il y avait des retards, etc. C'est juste qu'il y avait pas de système de production sur ce truc, alors que c'est de la prod. T'as une idée, on a besoin de d'une infographie, on a besoin de d'un schéma, de machin, de truc. Donc t'as une phase de brief, mettons, je simplifie à outrance. Donc t'as une première workstation qui va être le brief.
Ouais.
Une deuxième workstation qui va être la conception. Donc là où la personne fait le truc. Une troisième workstation qui va être la qualité, revue de qualité. Et puis une quatrième qui est la mise. S'il faut mettre le truc en prod, c'est la mise en ligne ou c'est la diffusion. Donc tu définis chacune des workstations comme une ligne de production. Et sur chaque workstation, tu vas te poser la question de qu'est-ce que j'ai en entrée, qu'est-ce que j'ai en sortie. Il faut que je vois le truc et c'est quoi le niveau de qualité attendu. Et ça, cette question, elle est clé. C'est tu vois, dans quand tu crées un système comme ça, une chaîne de prod, c'est quoi le niveau de qualité attendu. Donc tu dois t'entendre sur le niveau de qualité. Et si tu définis un standard là-dessus, tu dis bah voilà, en fait le niveau de qualité c'est ça. Et t'as potentiellement deux types de pièces. T'as des trucs qui sont super importants, genre ton site vitrine. Là, le niveau de qualité il est là. Et puis t'as un article de blog. Ou un post LinkedIn, bon, peut-être que t'as pas le même niveau d'attente. Mais à partir du moment où t'es super clair, t'alignes tout le monde dessus. Sinon, le problème, c'est que tu fais de la surqualité. Ce qu'on appelle de la surqualité, c'est-à-dire que t'as des personnes qui vont passer beaucoup de temps à produire un truc qui en fait est too much. Ou alors de la sous-qualité. Mais là, dans l'exemple, c'était, il y en avait un qui avait l'impression de faire de la sous-qualité, l'autre de la surqualité, et tout le monde était perdant. Et en plus de ça, on voyait pas la ligne de production. Donc maintenant, on a rendu visible le truc, où t'as un endroit où tu vois toutes les demandes, un endroit où tu vois ce qui est en cours, combien de temps, et donc là t'as ce qu'on appelle un Kanban. Donc ça c'est un autre modèle mental, on en a un peu parlé du Kanban. Le Kanban, c'est tu t'imagines une personne dans un espace de travail, et puis une pile de choses qui à faire, un shop stock qui est l'endroit où on va amener les pièces, et puis quelques indicateurs. Il faut qu'on voit sur le temps qui est estimé pour la tâche, et qu'on voit le lead time. Et le temps estimé pour la tâche, l'objectif est pas de fliquer la personne, surtout pas. C'est pas de dire ah ouais, est-ce que t'es dans les temps. C'est de se dire est-ce que si on dépasse, pourquoi. Tu vois, et encore une fois, on s'interroge sur notre pratique. Et ça, c'est jamais compris. En général, les gens détestent qu'on mette des budgets ou qu'on mette un temps parce que ils voient ça comme du flicage. Mais l'intention n'est pas du tout celle-là. L'intention, c'est de se dire on va organiser les flux pour mettre toute la boîte au même rythme, et se poser la question quand on n'y arrive pas. Du pourquoi et pour s'améliorer. Et donc toute la boîte au même rythme, ben c'est imagine t'as toutes tes chaînes de production qui sont réglées. À la fin, la valeur elle est tirée pour être délivrée au client. Et il faut que tout le monde avance au même rythme. Donc ça c'est le tact. Imagine un métronome. Et donc est-ce que le tact est bon? Et est-ce que les gens avancent au même rythme? Parce qu'un des problèmes dans une boîte, c'est que t'en as un qui avance à fond, puis il attend l'autre, puis tu vois, et c'est très séquencé comme ça. Et donc, si tu réfléchis pas au métronome, en fait, c'est très désordonné. Et donc,
c'est qui le métronome du coup? Est-ce que c'est quelqu'un qui gère ça? Est-ce que c'est juste une règle que vous fixez?
Ouais, c'est juste une règle de tous. Enfin,
ouais.
En général, ton niveau de jeu dépend de la vitesse à laquelle le métronome va. Potentiellement au départ c'est lent et puis tu vas le raccourcir, mais tu vois par exemple un truc qui permet d'aligner, c'est d'avoir un rythme de release. Ça c'est pas un truc très populaire en méthode agile, même si c'est parfois mal compris. On veut faire de la release en permanence. En fait c'est à mon sens une erreur, parce que t'as envie de mettre tout le monde au même rythme. Et donc, si tu te dis, je vais faire une release, mettons, tous les mois. Alors, pour les features majeures, tu peux faire des petites releases au fil de l'eau, tu vois. Les features majeures, ça permet d'avoir la tech qui est alignée avec la QA, qui est alignée avec le support, qui est au courant qu'il va y avoir les features qui vont arriver, qui est alignée avec le marketing, qui va pouvoir bien marketer l'offre, qui est alignée avec le product marketing, qui va mettre en place tous les documents qui vont bien. Tu vois. Donc ça, c'est une forme de tact. En fait, t'as plusieurs tacts, hein, tu vois, mais t'imagines que la boîte avance au même rythme. Et donc, qui le fait, qui le décide, in the end, c'est le comité, enfin, c'est l'exec, quoi, parce que c'est leur job. Le job d'un patron de département, c'est de construire le système de son département et faire monter les gens en compétences et les aider à s'améliorer. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Et donc il faut que les gens bossent ensemble et discutent ensemble de tu vois, que le marketing bosse avec la tech, avec les sales, etc., pour s'accorder sur ce rythme.
Peut-être juste une petite question pour comme ça je respecte ton temps et si jamais ça vous intéresse qu'on creuse davantage le sujet, dites-le nous sur LinkedIn ou voilà, on m'envoie un email. Mais juste pour terminer là-dessus, ouais, parce que voilà, je peux pas m'éterniser. En termes de...
Il a perdu. En attendant, je vais meubler. J'ai un petit modèle mental que j'aime bien. Je te le fais en attendant.
Ouais, vas-y.
Tu as le modèle de la zone proximale de développement.
Vas-y.
Celui-là, il est hyper utile. T'imagines un cercle. C'est ce que la personne connaît et sait faire, tu vois. Et t'as autour, t'as ce qu'elle ne sait pas faire, et ce qu'elle connaît pas encore. Et ce qui est important, c'est de savoir est-ce que et donc la personne, t'as envie de l'amener dans la zone proximale de développement, c'est-à-dire la zone qui est proche du cercle de ce qu'elle sait faire, mais qui est pas trop éloignée. Parce qu'en fait, si t'es trop éloigné, c'est voué à l'échec, tu vois. Et se poser cette question de où je suis, dans quelle zone je suis, c'est tout con, hein, mais c'est hyper efficace de cette zone proximale de développement, c'est là que tu vas être. C'est là que tu vas pousser la personne un peu en dehors de ses retranchements, c'est un peu inconfortable, mais c'est accessible et donc t'arrives à avoir des wins, tu vois. Si tu amènes trop loin, en fait, tu vas la casser. Si c'est trop en dessous, bah en fait, elle va s'emmerder. Et voilà. Donc bon, voilà. J'espère que t'as retrouvé ta question en attendant. Et celle-là, je l'aime bien.
Ouais, non, mais merci beaucoup. En vrai, tu m'évites de faire un cut. Donc, j'étais à deux doigts de cutter, mais ouais, bah écoute, merci pour ce dernier modèle mental. Non, j'allais dire là-dessus. Donc, les startups, c'est souvent voilà perçu par les gens comme étant quelque chose de très agile. Et quand on rejoint une startup, on s'attend à avoir à ce que parce que ça parte dans tous les sens, mais que ce soit moins, en tout cas moins rigide qu'une organisation classique. Là, tu rajoutes un petit peu plus de rigueur avec des process, comme tu l'as dit, qui ont été éprouvés dans des industries qui sont souvent centenaires. C'est quoi un peu les freins justement à la mise en place, tu vois, de ce genre d'approche? Est-ce que c'est des freins humains, c'est des freins techniques? Enfin voilà, c'est quoi ton retour là-dessus?
Alors bon, déjà moi je pense que c'est une croyance erronée que de se dire que quand c'est un joyeux bordel, tout va mieux, tu vois, et que c'est sympa. Ça marche à 10 personnes. Ça marche plus au-delà de 50 personnes. Et même à 30, ça devient chaud. Et donc, en fait, tout le monde empathie. Parce que je te donne un exemple sur l'exemple dont on parlait du design tout à l'heure. La personne, elle va bosser comme un malade pour faire un travail super. Puis à la fin, il y aura zéro reconnaissance, on lui dira que c'est de la merde. Et en fait, quand les règles du jeu sont, quand tout ça est clair, tout est beaucoup plus simple. Et puis en fait, tu t'intéresses aux personnes, tu les développes. Et donc, ça n'empêche pas d'aller vite. Au contraire, en fait, on va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est le bordel, ça fait pas aller plus vite. Je pense, c'est une croyance. Et ensuite, un autre point important, c'est que on rajoute pas du process. Hein. On met en place certains process, on met en place ce qu'on appelle des standards, mais on évite au maximum les process. La processite qu'on a justement dans beaucoup de startups, on va tout documenter. Au support, je peux te dire que on en a une chier de pages Notion de documentation qui sont jamais lues, hein. Soi-disant process. En fait, les process, tu les mets dans le système. Donc t'essayes de, tu passes beaucoup plus de temps à penser à comment tu vas configurer ton environnement, voilà, pour ne plus avoir une page de papier avec voilà les règles, tu vois. C'est seulement quand c'est en place que c'est compris, parce qu'au départ, effectivement, tu dis bah on va mettre du lean. On a vu un truc, j'ai discuté avec des mecs, ça a l'air super et ça me parle bien, donc on va tenter. Et donc on s'y prend, en plus on s'y prend un peu comme un manche. Probablement. Et le principal frein, enfin, il y en a deux. Le premier, disons, c'est que en fait, le lean, ça ne marche que si c'est une énorme conviction du top management, parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dans la durée. Donc ça, c'est quand même un des prérequis. Sinon, ça ne marche pas. Dès que t'arrêtes, c'est comme un élastique, ça repart comme avant, quoi. Tu vois. Tant que c'est pas vraiment complètement diffusé. Donc ça demande vraiment un investissement dans la durée. Et au départ, et le deuxième truc, c'est les freins psychologiques. Ça, c'est, je pense, le principal, mais de très très loin. C'est-à-dire que, comme on disait, truc, il a été inventé au Japon. Donc les Japonais, c'est pas des rigolos. Tu dis bah putain, merci quoi. On est une start-up et on va foutre des techniques japonaises. C'est l'horreur quoi. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que Toyota, en l'occurrence, il dénote dans l'environnement japonais. C'est pas un truc normal. Puis en plus, on a adapté à notre culture. Mais donc ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est que tu dis bah ouais, merci. On construit des bagnoles, ça n'a rien à voir. Moi, je suis pas un ouvrier sur une chaîne de production. Non, bah, j'ai un travail plus noble que ça quand même. Certes, mais en fait, il y a quand même beaucoup de comparables, comme on le disait, et ça n'empêche pas que tu peux utiliser ces modèles comme une intention. Et puis les adapter à ton taf et derrière ça fonctionne. Donc le principal frein, il est humain et ça il est très dur à casser en fait. Mais la manière dont il faut s'y prendre, c'est aller sur les zones de la boîte où c'est le plus facile, ne pas chercher à le faire partout. Nous au début on a cherché à mettre partout, enfin, une partout, tu vois. Alors, on a découvert les standards, on a foutu des standards partout. On a découvert le camp, on a foutu des camps partout. Enfin, tu vois, c'était, puis en fait, le truc, il est pas maintenu, il est pas utilisé, personne comprend. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, il vaut mieux y aller de manière un peu chirurgicale, dans les zones de la boîte, idéalement, où c'est le plus facile, tu vois, le support, c'est un bon use case, parce qu'en plus, t'es proche de la valeur. C'est assez facile à mettre en place. Mmh. Et à commencer avec les personnes qui ont envie de jouer. Tu vois, quand tu vas commencer à arriver, t'en as qui vont, tu sens que ça les intéresse, ça les intrigue, ils ont envie de comprendre. T'en as qui sont en réaction, non, mais genre jamais de la vie. En fait, t'essayes pas de jouer avec eux. C'est pas grave. Tu joues avec ceux qui ont envie. Mmh. Et tant mieux, parce que ceux qui ont envie, ils vont grandir beaucoup plus vite. Et puis tu vas mettre en place des choses où on va voir que ça marche, tu vois. Et donc t'as besoin d'avoir des preuves. Le plus vite possible, il te faut des preuves que ça marche mmh. et que les gens qui l'utilisent en sont contents. Tu vois, bah, j'étais récemment à une conf qui était donnée par, chez Zen Chef. Justement, sur le sujet, ils ont foutu du lean, côté sales, ils ont eu l'approche comme ça. Et effectivement, tu vois, quand ça commence à porter ses fruits, ça intrigue. Tu vois, les gens disent, ah ouais, en fait, c'est quand même intéressant. Et puis quand les gens dans les équipes en sont contents, mmh. ils disent, ah ouais, putain, bah, en fait, c'est peut-être quand même pas con. On va quand même un peu regarder, quoi. Tu vois. Et donc, il faut faire ça. Mmh. Il faut absolument faire un truc qui est un des fondements du lean, c'est aller ce qu'on appelle sur le Gemba, c'est le go and see, quoi. Et tu vas sur le terrain et tu vas regarder des pièces. Encore une fois, ouais. Tu vas pas regarder des stats. Tu vas parler aux gens. Tu vas dire, bah voilà, vous battez sur quoi? Et puis tu vas avoir des réponses différentes au début. Donc déjà, tu te dis, bon, il y a peut-être, faut s'aligner sur ce qu'on cherche à faire, mais, et puis ensuite, tu vas prendre des pièces et tu vas les aider. Et quand tu prouves que t'apportes de la valeur immédiatement et que t'enlèves des cailloux dans la chaussure, bah ça crée de la confiance. Donc le socle, c'est la confiance, quoi. Et à partir du moment où tu commences à rendre les choses visuelles et que t'as la confiance, là ça commence à être gagné. Il faut convaincre les gens un par un et ça prend un temps phénoménal. Nous on en est encore, je dirais même au début de notre cheminement, tu vois, ça fait quelques années, mais c'est long, quoi. C'est long. Et voilà.
C'est work in progress.
Ouais, c'est work in progress. Ouais. Je sais pas si ça répond bien, mais
si, c'est parfait. Écoute, et on est dans les temps, donc je veux pas te grignoter plus de temps que ça. Mais voilà, si ça vous intéresse de creuser le sujet, dites-nous si vous avez envie qu'on refasse peut-être un épisode spécifique avec des use cases, métier sur, j'en sais rien, le product, le marketing, le sales ou autre. Potentiellement peut-être en faisant intervenir d'autres personnes de chez
Carrément,
Connect
on pourrait faire intervenir du monde des extras, tu vois, des coachs ou autres sur des cas un peu concrets, parce que j'ai conscience que c'est un peu abstrait tout ça sans aller vraiment sur le terrain. Avec plaisir.
Non mais ouais, avec plaisir, dites-le nous. Et puis non, franchement, merci beaucoup Arnaud pour la valeur. J'ai pas été déçu comme pour la première fois. Merci.
J'espère que ça servira.
Et puis
si les gens peuvent en retirer au moins une chose, ça sera déjà pas mal.
J'en suis sûr. Et puis s'ils veulent aussi te poser des questions, je pense que t'es assez accessible sur LinkedIn, où ils peuvent t'envoyer un petit mail. Voilà. Donc merci beaucoup encore une fois et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je
Salut
vous dis
Eric.
À très vite. Ciao. SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème. Partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, Secelet. Encore merci et à la semaine prochaine.